une production du Studio SF.
Salutations, groupe. Encore une fois, bienvenue à Dieu du temps discute. Merci d'être à l'écoute. Si c'est la première fois que tu écoutes, ben mon Dieu, bienvenue dans ce merveilleux monde qu'est le podcast. Je le répète souvent, mais je trouve ça important de vous dire merci pour les bons mots. J'en reçois vraiment beaucoup. Et c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis vous faites pas de faute. Puis ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme rafraîchissant et rassurant d'avoir des gens qui écoutent et qui savent écrire. C'est très apprécié. Mon invité aujourd'hui, c'est un gars que j'ai déjà reçu sur le podcast. Je l'ai reçu plus dans les débuts. Ça doit faire un an et demi déjà que je l'ai reçu. C'est un journaliste international, mais là, il y a un nouvel job. En tout cas, c'est juste un gars fascinant. Puis c'est un gars qui a à peu près mon âge, mais qui a le vécu d'un bonhomme de 77 ans, là, qui a vécu deux guerres. Là. Il est vraiment, vraiment spécial puis vraiment gentil. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand le déconfinement est arrivé et on s'est croisés dans un parc par hasard et on a fini par jouer au spikeball l'un contre l'autre. Si jamais vous connaissez pas le sport spikeball, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas ce que vous attendez, c'est extraordinaire. J'ai jamais fait d'héroïne dans la vie. Mais l'intensité avec laquelle j'aime le spikeball doit s'apparenter à l'intensité de l'héroïne. Non, mais bref, tout ça pour dire, c'est un excellent joueur de spikeball, mais surtout un être humain fascinant, profondément gentil et généreux. Et il a eu la générosité de m'offrir deux autres heures dans sa vie. Alors voici ma belle conversation que j'ai eue avec Jasmin Lavoie.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, j'ai du temps pis discute. Merci d'être là.
Ouais, c'est j'ai du temps qui discute. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute.
Mais merci d'être là, Jasmin. Comment tu vas?
Écoute, je vais bien. Ouais. Je vais vraiment bien. Je vais t'avouer que j'étais pas sûr de venir. Quand tu m'as invité la première fois, j'étais comme je sais pas si j'ai quelque chose à raconter tant que ça. Puis là, après, j'ai repensé à ça. Puis je me suis dit deux affaires. La première, je me suis dit, il y a quand même pas mal de monde qui disent n'importe quoi en ce moment sur le web. Donc,
Quand on se compare, on se console.
C'est ça. C'est difficile d'être plus impertinent, mettons, que tous les complotistes en ce moment. Puis la deuxième chose, je me suis dit aussi, j'ai quand même fait pas loin quoi de 10-12 pays depuis qu'on s'est parlé la dernière
fois.
C'est ça. Fait qu'on a quand même une couple de choses à se raconter, je pense.
Mais oui, c'est clair. Parce que là, est-ce que tu veux qu'on parle des 10-12 pays ou tu veux parler de ton nouveau projet? On peut t'en parler?
On peut en parler. On peut parler de ce que tu veux, Jay. Il y a zéro stress.
Parce que là, toi, mettons, dans les derniers mois, comment ça a été? Mettons qu'on commence par ça.
Ouais, OK, on va
commencer. Parce que quand ça a éclaté, t'étais où?
Quand ça a éclaté, ça dépend quand tu... Tu sais, je veux dire, c'est depuis janvier qu'on le sait, mais mettons la fameuse semaine de début mars, là, ouais. C'est ça, mi-mars. J'étais rendu en Afrique du Sud, j'étais avec ma blonde, ouais. Laurence. Puis c'était un voyage de plaisance d'un mois. Je faisais un peu de reportage quand même sur le site.
C'est clair, mais... tu peux pas être en Afrique du Sud sans faire un reportage, je veux dire, dans ta situation. Là.
Ouais, c'est ça. Puis surtout, tu sais, j'ai été vraiment frappé là, par l'Afrique du Sud au sens où... Je l'ai comparé avec tous les autres pays africains que j'avais vus dans la dernière année. Puis c'est ça, c'est juste tellement différent. D'abord,
c'est une autre affaire.
Ouais. La première chose, j'ai vraiment trouvé que c'était riche, beaucoup plus riche que n'importe quelle autre place. Quand tu te promènes dans des coins à Cape Town, tu as l'impression d'être à LA. C'est vraiment weird. Là. Il n'y a aucun autre endroit en Afrique subsaharienne où tu as cette impression-là.
Les espèces de villas sur le bord de la côte, les belles plages, les restos, il y a beaucoup de vedettes qu'on m'a dit quand j'étais là, énormément de vedettes, justement, de LA, que c'est là comme leurs vacances. Ils vont là chiller. Genre.
Trevor Noah, peut-être.
Yo, j'ai rencontré... Tu connais-tu... Lise... voyons que j'ai un blanc de son nom. La femme à Jane Aidoo, qui est une journaliste de Radio-Canada.
Oui, celle en Afrique du Sud.
Oui. Lynn...
Lise... C'est pas Tremblay?
Non. Voir que je l'oublie! Voyons, c'est pas gênant. Elle était à bonsoir avec moi. Elle est tellement gentille.
Ouais.
Anyway, ça va m'en revenir. Ouais. Puis... j'ai fait une entrevue avec elle d'une heure Tu peux-tu chercher ça, mon beau Nick? Oui, ça me gosse au bout. Nick, il va me trouver ça. Ça c'est gênant parce qu'elle est tellement, elle était tellement généreuse avec moi et tellement gentille.
Ouais.
Puis elle me disait justement, je suis en train de lire le livre de Trevor Noah. Je sais pas si tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu. Mais j'écoute son show. Là. Je connais quand même un peu le personnage.
Mais genre, lecture extraordinaire.
Ah ouais?
Extraordinaire. Divertissante, éducative, pertinente, touchante. Man, je lisais ça à OD, justement. Genre, j'étais en train de broyer à la fin du livre, puis là, t'as juste quelqu'un qui me dit dans l'oreille, « Hey, Jay, faut que t'aies fait une annonce. » OK. Fait que finalement, tu t'en vas à Londres, j'en reviens. Puis là, c'était fucked up. Puis je disais ça, justement, quand même, j'étais en train de lire son livre. « Ah, mon Dieu, la prochaine fois, dis-le-moi, on le connaît bien. » J'aime quoi?
Très relax, très candide comme ça. Ah ouais, hein?
Ouais.
Ah non, mais c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, lui, en Afrique du Sud, c'est une superstar. Là, tu le vois aussi juste quand tu t'en vas à l'aéroport puis dans les stands à livres. C'est toujours son livre qui est en premier partout. C'est lui qui a réussi aux États-Unis. Tu sais, c'est vraiment... C'est une belle histoire, pour vrai, je trouve. Puis c'est beau de voir aussi comment il réussit bien avec le Daily Show, comment il l'a repris puis il l'a mis à sa sauce. C'est vraiment cool.
Vraiment, vraiment. Fait que là, t'es là-bas...
C'est-tu Lucie Pagé?
Lucie Pagé! Merci, Nick. Merci tellement, mon Dieu. Je m'excuse à Lucie. Caroline, c'est gênant.
Elle était venue à OD, d'ailleurs, non?
Exact, exact. J'ai fait une entrevue d'une heure avec elle. Ils ont gardé, mettons, 8 minutes. Là.
Ouais.
Mais c'était vraiment une rencontre spéciale.
Puis c'était cool aussi que vous faisiez ça, t'sais, au sens où c'est important aussi que les candidats, même s'ils sont dans une bulle, comprennent dans quel contexte ça s'inscrit, là, leur
Absolument.
Aventure en Afrique du Sud.
Absolument.
Ouais.
Fait que là, toi, là-bas, vous étiez supposé être là combien de temps? Puis à quel point tu faisais du reportage sur le site? Genre, c'était juste pour toi?
Non, ben c'était, mettons, j'ai fait un truc à Culture Club, à Radio-Canada, parler un peu de ce qui se passait, les événements culturels là-bas. Mais surtout, en fait, c'est que moi, ça s'inscrivait dans un long voyage en Afrique que j'avais prévu. Juste avant ça, j'avais fait un mois en Éthiopie. J'étais allé avec Philippe Braque.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'était un bon personnage aussi, là. Fait que se promener en Éthiopie avec lui, c'était quand même épique.
Comment il va, Philippe? Il me semble, il est en train de préparer quelque chose ou...
Ah, il prépare toujours quelque chose, Philippe. Philippe, je pense qu'en ce moment, il s'est acheté comme une espèce de maison dans le bois. Puis on le voit plus. Là. Il est là-bas. Puis si tu veux aller le voir, tu t'en vas dans le bois, passer une couple de jours avec, faire du quatre roues, te promener dans la rivière, puis pas loin de la rivière, puis pêcher. Là. C'est comme rendu ça sa vie un peu. Mais oui, il s'est construit un studio de musique. Puis je pense qu'il s'éclate un peu là-dedans. Mais ouais, fait que ça s'inscrivait dans une espèce de perspective de voyage de comme 3-4 mois en Afrique où je voulais faire plein de pays. Puis
c'était quoi l'idée? Pourquoi? C'était quoi l'idée de départ de ce projet-là? C'était-tu juste pour toi? C'était pour écrire quelque chose? C'était quoi l'idée?
Bien, l'idée, c'était deux choses. La première, c'est juste de faire de la pige en Afrique puis essayer de visiter le plus de pays possible puis de vivre le plus d'aventures possible. Puis c'est ça. La deuxième, c'est que ça s'inscrivait dans une espèce d'idée où je me disais, bon, j'aurais peut-être fait d'ici 2-3 ans 15-20 pays en Afrique puis ouais, je pourrais peut-être raconter quelque chose un peu plus sur ce continent-là que j'essaie tranquillement de découvrir. C'est fascinant, l'Afrique, hein, c'est un peu comme la marche de l'histoire. Même si c'est pas la marche géopolitique, c'est pas la Chine qui est en train de prendre la première place, la première puissance mondiale. Pour d'autres raisons, c'est la marche de l'histoire aussi, l'Afrique, hein, parce que c'est quoi? La population va doubler dans à peu près tous les pays. La moyenne d'âge, c'est comme en bas de 18 ans. En tout cas,
c'est pas vrai.
Oui, dans plusieurs pays. Je pense que la moyenne en Afrique, d'âge pour les 54 pays, c'est autour de 20 ans. Ouais,
non!
Il faudrait voir les stats, mais oui, c'est fou. Mais écoute, la moyenne au Nigeria, où j'ai passé au final quoi 5-6 mois dans la dernière année, je pense que la moyenne d'enfants par femme est autour de 7. Donc, tu peux t'imaginer que ça va assez vite. Oui. Ben oui, c'est ça. Malheureusement, c'est un peu triste parce que souvent, les taux de fécondité les plus élevés, ça va être dans des endroits assez pauvres. Donc, ils le font aussi parce que pour eux, c'est une façon de continuer un peu. En fait, c'est comme une police d'assurance pour ces gens-là parce que quand ils vont vieillir, ce sont leurs enfants qui vont leur permettre de survivre aussi. Là. Donc, puis aussi par manque d'éducation, souvent, même s'ils vont distribuer des... Il y a plein d'ONG qui vont distribuer des contraceptions, des mesures de contraception. Les femmes n'ont pas nécessairement le pouvoir de dire à l'homme, OK, non, il faudrait que tu le mettes, le condom. Donc, ça crée toutes sortes de situations comme ça. Ouais.
Fait que j'imagine qu'avec les mouvements que ça a engendré, qu'on a vécu dans les derniers mois, autant le Black Lives Matter que la vague de dénonciation, toi, t'arrivais d'un voyage où ça, c'était comme... ces problématiques-là étaient exponentielles.
Oui, bien, en fait, c'est à des années-lumière. En fait, on n'est pas proches dans plusieurs pays du monde de parler de, des mouvements de dénonciation. La diversité, ça s'applique plus ou moins là, dans plusieurs pays du monde parce qu'il n'y en a pas tellement, du moins pas ethnique, mais il y en a... Non, c'est pas vrai, non, il y en a beaucoup ethnique, mais je veux dire... À peu près tout le monde en Afrique subsaharienne est noir, donc ouais. Il n'y a pas nécessairement d'enjeu là-dessus, mais en fait, il se pose de différentes façons. Donc, des ethnies vont être favorisées par rapport à une autre ethnie dans plusieurs pays. Il va y avoir aussi des enjeux de religion il va y avoir beaucoup de discrimination autour de ça. Donc, mais on est encore très, très loin de la discrimination positive ou des choses comme ça qu'on commence à voir chez nous puis qui sont des bonnes choses, je pense, mm-hmm. puis ou la manière dont la police traite les minorités aussi. Non, on n'est pas là pantoute. Écoute, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Fait que
là, le premier endroit que tu as fait en Afrique, c'était?
Cette année, c'était en Éthiopie. Donc,
tu as commencé avec un mois en Éthiopie avec Philippe Braque.
Oui, c'est ça.
Que tu as connu au cégep, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Okay. Fin secondaire. Ouais, okay. Il était un an plus jeune que moi au secondaire. Puis c'est ça, il était venu me voir au Pakistan à l'époque. Puis ouais. Là, on s'est fait, OK, on se fait un autre voyage. Puis l'Éthiopie, c'est comme un... Êtes-vous allé avec OD ou...
Des candidats, oui, pas allés, moi.
Hein, c'est ça? Ouais. C'est comme une semi-destination touristique en Afrique. Là, ça, parce que, ils ont Ethiopian Airlines, qui est comme une compagnie qui est la meilleure en Afrique. Donc, c'est beaucoup plus facile de voyager là-bas. Donc, ça devient comme semi-touristique un peu. Je pense que s'il n'y avait pas eu la COVID, là, d'ici 5-10 ans, ça serait devenu un peu l'espèce de Colombie ou d'espèce d'autres destinations... qui deviennent de plus en plus accessibles au tourisme de masse. Donc, on voulait comme y aller avant la vague.
Ce qui dans
on
ne
pensait pas que c'était cette vague-là, finalement.
Dans le contexte dans lequel ils sont, est-ce que c'est une bonne chose que le tourisme devienne plus populaire?
Ben oui, je pense que oui, parce que c'est bon pour l'économie quand même. Là. Donc, à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Mais donc
qu'est-ce qui t'attirait en Éthiopie, outre le fait que ça s'en vient, mettons, la popularité de ce pays?
C'est probablement un des pays... En fait, c'est peut-être un des pays qui va le mieux en ce moment, qui a le plus d'espoir d'une espèce de viabilité économique, de progrès social et tout ça. Il y a en novembre l'année passée, le premier ministre a gagné le prix Nobel de la paix parce qu'il a réussi à faire la paix avec l'Érythrée, qui est comme le pays juste à côté.
Ah ouais, hein?
Donc, il y a ça. Deuxième chose, c'est aussi le seul pays en Afrique qui a jamais été colonisé. Donc, j'étais curieux de voir un peu comment la culture a évolué là-bas.
Ouais.
Troisième chose, touristiquement, c'était très intéressant. Il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Il y a un désert que finalement, j'ai pas fait parce que j'étais malade, mais il y avait surtout un train que je voulais absolument prendre. Un train entre Addis Ababa, la capitale, et Djibouti, qui est comme un autre pays dans la corne de l'Afrique, en haut à droite sur la map, là, mettons que tu regardes.
Ouais.
Puis c'était... ça m'a pas déçu, disons-le ainsi. C'est un des trips les plus épiques que j'ai fait dans ma vie.
Fait que là, raconte-moi, mettons, là, t'es à la capitale, fait que j'imagine que la gare est quand même bondée, il doit y avoir beaucoup de monde.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Parce que c'est un nouveau train. Okay. Puis c'est pas tellement un train qui va t'apporter, par exemple, à 1 heure ou 2 heures en banlieue. C'est juste un train qui part d'Addis, qui va à Dirdawa, qui est comme une autre grande ville du pays, et ensuite à Djibouti. Mais donc, c'est pas un train qui est utilisé par tant de monde que ça, parce que c'est nouveau, c'est les Chinois qui l'ont construit. Fait que je trouvais ça justement intéressant d'aller voir comment ça marche, puis si ça fonctionne bien. J'avais lu plein d'affaires là-dessus. C'est parce que ça symbolisait aussi un peu l'espèce de progrès de l'Éthiopie, au sens où là, ils sont rendus avec un train qui part de la capitale, qui s'en va à une côte aussi. C'est surtout un train de marchandises, en fait, parce que maintenant, avec justement Djibouti, il y a un gros port là-bas, puis ils peuvent acheminer leurs marchandises jusqu'à l'Éthiopie, qui est un pays enclavé, donc il n'y a pas de frontière maritime. Donc, ils ont quand même fait un train de... plaisance que je voulais absolument essayer.
Là, tu l'as mis entre guillemets parce que c'est pas très plaisant.
Ah non, mais je pense que t'es pas très bien. On m'avait dit, quand je suis allé chercher mon billet, on m'a dit, oublie pas d'amener de la bouffe puis de l'eau. Là, j'étais comme, OK, parfait, pas de problème. J'avais lu que c'était 12 heures environ pour...
d'un bout à l'autre.
Ouais, c'est ça, d'un bout à l'autre. On s'assoit dans le train, puis là... l'histoire a défilé devant nous autres. Il y a Phil, il y a moi, il y a un autre touriste qui est finalement un banquier néo-zélandais là, qui était dans le train aussi. Le reste du wagon, c'était seulement des gens de Djibouti, donc des Djiboutiens qui retournaient à la maison. Bon, on s'assoit et là, il y a plein de monde qui commence à rentrer. Tout le monde se chicane un peu, il y a plein de bruit. Puis il y a surtout plein de monde avec des valises remplies de fraises. Là, on est comme... OK? Parfait, pas de problème. On va laisser ça comme ça. Puis moi, je voulais faire quelque chose avec ça. Je voulais en faire un reportage aussi parce que c'est vraiment intéressant comme sujet. Donc, je suis assis, puis je prends des notes de tout ce que je vois. Je prends une couple de vidéos, puis des photos aussi. Puis là, le train se met en marche. Puis c'est ça, à ma gauche, je vois la ville d'Addis Abeba. Puis là, je me dis, bon, mais tu sais, c'est comme un peu une métaphore de où s'en va le pays, je trouve, ce voyage en train-là, parce que l'Éthiopie, c'est à mi-chemin entre un pays qui pourrait devenir un success story en Afrique, mais aussi un pays qui pourrait tomber dans les violences ethniques, puis basculer, ouais, c'est ça, dans les violences ethniques, puis vraiment, finalement, mal viré. Donc, je me pose la question.
Est-ce que les violences ethniques là-bas, c'est...
En plusieurs ethnies à travers l'Éthiopie, ils sont séparés, dispersés dans plusieurs endroits du pays.
Okay.
Donc, c'est une possibilité aussi, ça, parce que politiquement, c'est très difficile de rallier tout le monde. Puis, il y a souvent aussi des violences ethniques à travers le pays, là, dans des universités ou même ailleurs, des dizaines de morts. C'est vraiment... C'est très difficile de lier ce pays-là ensemble.
Entre les Éthiopiens.
Oui, à l'intérieur, oui.
OK.
Ouais.
Et là, quand tu dis que c'est le président là-bas, c'est un président?
Oui, le premier ministre.
Le premier ministre?
Oui, Abiy Ahmed.
Qui a gagné le prix Nobel de la paix. Lui, est-ce que les gens l'apprécient là-bas?
Oui.
Certains oui, d'autres non, j'imagine.
C'est ça, exact. Il a pas gagné d'élection. En fait, lui, il a comme été nommé après une espèce de révolte populaire. Donc, il est supposé aller en élection bientôt, mais là, avec la COVID, ça a été retardé. Donc, il est apprécié d'une bonne partie de la population, mais tout dépendant de quelle ethnie tu viens, il y en a plusieurs aussi qui l'aiment pas. Moi, j'ai sondé beaucoup à Addis, mais dans la capitale, il est très populaire. Je pense que c'est en région où c'est plus difficile. Donc, c'est ça. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas.
Puis quand tu dis que tu es dans le train puis que tu vois la ville ressemble à quoi?
Addis Abeba, ça ressemble à une espèce de... Vraiment une ville en développement. Il y a des comment on appelle ça
encore? Beaucoup de grues?
Oui, des grues, exact. C'est ça. Donc, il y a plein de tours qui sont en train de se construire. Puis il y a des hôtels. Le centre-ville, c'est assez développé. Les routes sont belles aussi, sont tous goudronnées. Donc, il y a comme un semblant de modernité. Mais il y a aussi plein de monde en rue qui clairement en arrache. Donc, tu as tout ça qui se côtoie encore en ce moment. Donc, c'est pas clair, c'est ça, justement, ouais. Si dans 5-10 ans, ça va devenir une espèce de centre assez moderne comme Johannesburg ou Cape Town.
Ouais.
Ou si, finalement, c'est ça, le développement économique va stopper et puis on va se retrouver avec une espèce de semblant de centre-ville moderne.
Okay.
Donc on est un peu dans ces eaux-là en ce moment.
OK. Fait que là, tu pars, là, tu regardes ça, puis... Là, tu te dis, mon Dieu, c'est ça. Tu te croises les doigts à souhaiter que ça aille bien. Ouais. On est vraiment à mi-chemin.
C'est ça. Je me dis, j'espère que cette ville-là va bien virer. Puis j'espère aussi que mon voyage en train aussi va bien se passer. Puis là, on part. Puis moi, je prends beaucoup de notes, comme je te disais. Puis je savais, mais je pensais pas que c'était jusqu'à ce point-là, je savais qu'il y avait une culture chez les Djiboutiens d'espionnage. Parce que Djibouti, c'est comme un endroit, c'est ça, à la Corne de l'Afrique, c'est un tout petit pays, mais il y a plein de bases militaires là-bas. Les Américains, les Chinois, les Français, ils ont tous des bases militaires.
À cause de la position.
Oui, parce que c'est juste Nord-Est. À côté du Yémen, c'est juste à côté du Moyen-Orient. Donc, pour eux, c'est super stratégique comme endroit. Mais ce que ça a développé dans la population, c'est une espèce de culture de la dénonciation, si tu veux, puis de l'espionnage. C'est-à-dire que dès qu'il y a un étranger qui rentre dans le pays, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi il est là. Donc là, tu peux t'imaginer qu'il y a un train plein de Djiboutiens. Avec deux blancs qui sont là, dont un qui prend plein de notes. C'est un petit peu suspect pour eux autres. Hein? Là, rapidement, il y a de plus en plus de Djiboutiens qui s'approchent de nous puis qui s'assoient. Puis là, qui se mettent à nous poser des questions. Puis c'est un peu tendu au début. Il y a James, là, le Néo-Zélandais, qu'on a fait venir finalement dans notre espèce de wagon parce qu'on est comme... T'es tout seul, c'est le chaos. On va être tous les touristes ensemble, mettons. Ouais. Puis là, donc, c'est ça. Il commence, il s'approche, il nous pose des questions. C'est un peu tendu. Puis finalement, ça se détend un peu. Puis on commence à jaser. Puis là, ils comprennent que, tu sais, je dis, ben, je suis un écrivain. Je suis là. Je prends ça juste pour moi.
À ce moment-là, mettons, quand ils se mettent à te poser des questions, t'es-tu nerveux? T'es-tu inquiet?
Je suis tendu. Je suis pas inquiet parce que je sais qu'ils peuvent rien faire ultimement. Puis je sais que tout ce qu'ils veulent, c'est probablement aller vendre ces informations-là après au gouvernement et faire un peu d'argent avec ça. C'est tout. Là.
Je sais quand tu dis ça de manière comme « Ah, mais ils peuvent juste faire ça. » Et ça comme je me mets à ta place et moi, dans la tête, je fais « S'il y a quelqu'un qui me pose des questions et que possiblement mes réponses pourraient être vendues au gouvernement, genre, je chie à terre comme j'ai la chienne. Je sais pas pourquoi.
Non, t'as raison, mais j'avais quand même... j'avais parlé avec un activiste djiboutien avant d'arriver pour comprendre justement là, jusqu'à quel point ça pouvait être dangereux que je donne mes données, que ça, ça se passe et tout ça.
Ouais, t'avais fait tes devoirs. Là.
Ouais, un peu quand même. J'essaye avant d'aller dans un pays. Puis donc, c'est ça. Fait que là, en tout cas, je suis pas trop sûr. Il y a ça qui se passe. Et là, tout le monde se met aussi à manger du cat. Du cat, là, c'est... Phil me le décrit parce qu'il en a pris quand même pas pire. C'est une drogue là-bas qui est comme légale. Puis il m'a dit c'est comme des micro-doses de moche.
OK.
Fait que ça donne une espèce de buzz, je pense, mais qui permet quand même de rester juste plus alerte. Fait que tout le monde dans le train commence à être sur le cat. fait que c'est comme une espèce d'ambiance vraiment étrange. Et là, environ comme 2 heures après notre départ, le train arrête. Aucune idée pourquoi. On est en plein milieu de nulle part, on est en plein milieu du désert. Il y a une gare qui a été construite par les Chinois qui n'a rien dedans. Il n'y a même pas de restaurant. Il y a sweet fuck all. Puis, de toute façon, on ne peut pas vraiment sortir du wagon parce que techniquement, on a déjà passé les douanes éthiopiennes. Même si on est encore en Éthiopie, notre wagon, ça devient comme un peu l'Éthiopie en soi. Puis, on n'a pas le droit de quitter tant qu'on n'est pas arrivé à Djibouti. Puis là, bon, une demi-heure passe, une heure passe. On se demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que je commence à jaser un peu avec le personnel qui est éthiopien. Et puis, je vois aussi le conducteur du train et le manager du train qui, eux, sont chinois.
OK.
Et on n'a pas de réponse. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du train. Là, je vois le monde qui commence à être nerveux avec leurs fraises parce qu'on a perdu l'air climatisé dans le train. Puis là, ils sont comme, OK, ils bougent, ils essaient de mettre du vent, tout ça. 2, 3, 4 heures passent.
Non.
Et là...
C'est long, 4 heures, là.
C'est long, 4 heures. Qu'est-ce à pas bouger en plein milieu d'un train. Ouais, on jase. C'est comme, le moral de Phil commence à diminuer, pas pire. Surtout qu'on n'a rien à faire à Djibouti. Là. Nous autres, le trip, c'est l'arrêt de train. Là. C'est tout. Puis, le staff ne sait plus quoi faire. Donc, ils viennent nous voir. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, pourquoi on a arrêté. Et ils décident d'organiser un référendum à l'intérieur du train pour savoir si on retourne à Addis Abeba ou si on reste là et on attend que peut-être la solution va se régler par elle-même, la situation. Mais on ne sait pas c'est quoi, là.
Hein?
Puis on ne sait pas pour combien de temps on peut rester.
Quoi?
Fait que là, mais moi, je suis team, on reste puis on continue. Fait que j'essaie de partir, tu sais, un peu ma campagne électorale à travers notre wagon.
Mais là, est-ce que les gens se parlent? Est-ce que vous parlez avec les autres?
Ben
tout le
oui.
monde?
Okay. Tout le monde amène son point de vue. Puis là, c'est juste un wagon. Parce qu'il y a 6 autres wagons aussi. Puis eux, ce sont tous des wagons qui s'en vont à Dire Dawa, l'autre grande ville du pays. Mais on n'a pas... Techniquement, on n'a pas vraiment accès à eux. Finalement, on a vraiment accès à eux parce que c'est pas si grave. Mais donc là, on est comme, OK, nous, dans notre train, on pense que le oui va passer puis qu'on va pouvoir rester.
C'est bien malade.
Mais on sait pas qu'est-ce que... C'est aussi tellement arbitraire. C'est what the fuck?
Ouais.
C'est nous autres qui décidons au final. Puis donc, on place nos votes. Finalement, on n'a jamais vraiment eu les résultats de ce référendum-là. On est juste resté là.
T'as participé à un vote en Éthiopie, man. C'est malade quand même.
C'était vraiment cool.
Je sais pas pourquoi, une image qui me vient en tête, c'est vraiment plus intense. Mais tu sais, dans Batman, quand sont dans, il y a 2 bateaux, il y a des prisonniers, puis non?
Non, j'ai pas la référence.
Non?
Raconte.
Mais c'est dans un des Batman, un des 3 de Christopher Nolan, je pense. Celui avec le Joker, en fait. Fait que celui avec Heath Ledger.
Ouais.
The Dark Knight. À un moment donné, vers la fin, il y a une scène où il y a 2 bateaux sur l'eau. Et il y a un bateau avec tous les prisonniers. Puis un bateau avec des innocents, des civils. Et là, le Joker a donné chacun une manette à un des 2 bateaux, disant « Hey, vous avez 1 heure. » si dans 1 heure, vous n'avez pas fait sauter l'autre bateau, vous allez sauter, genre.
Oh non!
Mais là, fait que là les 2 bateaux sont comme tabarnantes. Fait que là, c'est comme la ligne morale de comme Chris, attends, mais là, il y a ça, genre. Fait que les deux bateaux, tu vois, les prisonniers qui parlent, puis les citoyens aussi. Puis,
ils organisent un référendum.
Ils organisent un référendum.
C'est la bonne chose à faire.
Tout ça fait par des Chinois qui ont fait les bateaux. Fait que là, vous autres, ça penche vers le oui, vous sentez, mais on sait pas.
On sait pas, on sait pas. Puis là, ça reste comme ça, toujours rien de mieux. Là, le monde commence à kicker. Là, le cat commence à kicker. Le popé, là, le monde sont de plus en plus énervés. Ils ont quand même une capacité de résilience jamais vue. Je veux dire, la même situation, on transpose ça au Canada. Tu as une révolution sur Twitter. Là.
Ouais.
Tout le monde prend son téléphone. La compagnie de train a fait faillite le lendemain matin.
Ouais.
C'est sûr.
Oui.
Mais tout là, ça.
Mettons
tout ça
la moyenne d'âge, c'est quoi?
Mais t'as toutes sortes de monde, là. Ce sont des Djiboutiens, mais t'en as, c'est une, y en a une, c'est une femme enceinte, il y en a une autre qui a comme son enfant, il y en a qui c'est pas trop clair parce qu'ils ont des boîtes de fraises. Puis il y en a un que j'ai rencontré qui est comme, oh oui, moi j'habitais à Ville-Saint-Laurent avant.
Quoi?
Oh oui, c'est full
c'est
random.
C'est malade.
Ouais, fait que t'as des vieux, t'as des jeunes, toutes sortes de monde. Mais justement, pour ça, c'est un peu plus préoccupant. Quand, moi, c'est pas trop grave, on trouvait ça drôle, Phil puis moi, mais si t'es une femme enceinte, si t'es un jeune enfant, il n'y a pas de resto à bord du train. Donc, c'était vraiment important d'amener notre eau puis notre bouffe. Et donc, ça reste comme ça. On est resté 8 heures.
Non!
À ne rien faire.
Non!
À ne pas pouvoir sortir. Et là, tout à coup, petit annoncement dans le train. C'est beau, on repart!
Quoi?
On repart, tout le monde est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais là, vous avez juste 2 heures de fête?
Seulement 2 heures sur 12, normalement.
Man!
Mais ça fait 10 heures qu'on est parti. Puis là, je me dis, écoute, faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en vais voir l'espèce de gérante éthiopienne du train. Puis là, je dis, écoute, moi, je suis journaliste, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de monter comme un peu une scène juste parce que je veux avoir des réponses, ça n'a pas d'allure.
Ouais.
Puis finalement, je réussis à comme obtenir une espèce d'entretien avec le gérant chinois et avec elle aussi, qui est comme la gérante du staff éthiopienne. Puis je réalise assez vite que même les deux ont vraiment de la misère à se comprendre. Parce qu'elle, elle parle super bien anglais, mais lui, il parle pas très bien anglais. Puis c'est lui qui gère le train. Donc là, je me dis, bon, OK, c'est peut-être pour ça aussi que si eux, ils arrivent pas à communiquer ensemble, eh oui, c'est plus difficile avec nous de communiquer. Mais là, j'ai compris le fin fond de l'histoire. L'histoire, c'est que le train, il passe dans le désert, mais aussi sur des champs où il y a beaucoup de bergers avec leurs brebis puis avec leurs animaux. Donc, il y a des fermiers aussi. Et il y a 2 jours avant, le train avait tué un âne.
Non.
Et là, le berger ou le fermier, pas trop sûr du terme, a décidé de bloquer la voie ferrée, a mis des pierres dessus. Puis là, tout ce temps-là, c'était une négociation entre le gérant chinois et le fermier éthiopien. Mais je me dis, si lui, il ne sait pas parler à peu près anglais, comment ils ont fait pour se comprendre? C'est peut-être pour ça que ça a pris 8 heures.
Mais oui.
Ben oui. Puis je pense que ça s'est résolu avec le chef du village qui est venu essayer de convaincre le fermier de tasser ses pierres puis qu'il allait avoir réparation. Parce que dans le fond, je les comprends aussi, ces fermiers-là, ils n'ont rien demandé au monde. Il y a une traque de chemin de fer qui est arrivée puis eux, ils se mettent à perdre des animaux. C'est important là, pour eux.
Ben oui.
Donc, il faut que la compagnie chinoise les dédommage. C'est un peu ça qu'ils essaient de faire, mais c'est jamais assez pour eux. Puis je les comprends. Là, je pense que les Chinois, ils veulent pas vraiment payer beaucoup pour ça. Donc, c'est ça qui s'est passé.
Wow!
Ouais. Puis là, on est reparti. Ouais. J'étais comme, ah, parfait, c'est beau. Il reste 10 heures, on est là. Finalement, on arrive à Dear Dawa. Ils disent, non, il n'y a plus vraiment d'électricité pour le train, donc on va dormir ici. On a dormi là.
Là, vous avez pris comme un hôtel?
On a dormi dans le train.
Dans le train, straight up.
Pas de bouffe, rien. Là, pour vrai, on commençait à être à court de rations là, parce qu'on avait comme donné un peu notre pain puis notre beurre d'arachide qui nous restait aux autres,
ben
qu'on avait besoin aussi dans le train. Puis là, je te rappelle que mes vendeurs de fraises commencent à être très nerveux là, parce que ça fait 20 heures que les fraises sont dans le train.
Et eux, finalement, c'était quoi leur projet? On sait-tu? C'était
juste... Ah oui, c'est ça le clou du spectacle.
Okay, c'est
que vers la fin, j'ai compris que c'était des smugglers de fraises. Parce que les fraises se vendent environ 3 piastres du côté de l'Éthiopie. Fait qu'eux, ils remplissent des valises de fraises. Puis ils traversent ça, c'est des contrebandiers, puis ils vendent comme 30 piastres à Djibouti parce que la vie à Djibouti est très, très... Le coût de la vie est vraiment élevé. Fait que c'est ça qu'ils faisaient. Puis ils étaient comme 3-4 avec plein de valises. Il y en a un autre, c'était comme un réfugié yéménite qui vivait dans un camp de réfugiés. Il était comme, oui, j'étais allé chercher du travail en Éthiopie. On a jasé à plein de monde pendant ce temps-là.
Mais oui.
Puis au final, j'ai compris que finalement, il n'était pas vraiment allé chercher du travail. Lui faisait la contrebande de miel. Il y avait genre 2 pots de 20 litres de miel qu'il avait caché en dessous. Puis comment on l'a découvert? C'est qu'à un moment donné, les douaniers djiboutiens sont rentrés dans le train. Puis là, ils se sont mis à cacher toutes leurs fraises, toutes leurs miel parce qu'ils ne voulaient pas se faire prendre. Puis on les a vus aussi échanger de l'argent. Donc, ils ont bribé un peu pour pouvoir passer le pays. Puis là, je pensais que c'était terminé, mais ultimement, parce que les douaniers venaient à l'intérieur du train, puis plus loin, on sortait. Puis quand on sortait, là, ils se sont mis à distribuer toutes leurs valises à tout le monde random pour avoir moins de preuves, pour que lorsqu'il allait passer la sécurité, une fois rendu à la gare de train, il y avait juste une valise puis pas 7 de fraises. Donc, ils nous en ont offert et tout ça, mais moi, je voulais pas prendre de chance.
Mais là, oui, c'est ça, je comprends donc.
Parce que, ouais.
Te ramasser en prison pour des fraises. Ce serait malade.
Fait que ça nous a pris 24 heures au final. Pour une ride qui devait endurer, je pense, c'est ça, 12 ou quelque chose comme ça. Là.
Man, vous avez vécu une vie dans ce train-là? Ah,
c'était... C'est, mais c'est ça, le voyage aussi, non? C'est comme, tu t'attends tellement pas à ce qu'une affaire comme ça se produise. C'est vraiment tough, mais après, c'est une histoire épique, là. Genre, ouais. Je te la raconte aujourd'hui, puis c'est bon, là. Fait que je suis content que ce soit arrivé. Mais ouais, ben, finalement, on est resté, je pense, 3 heures à Djibouti. On a pris un avion, puis on est revenu à Addis Ababa.
C'est ça.
On n'a rien fait là-bas.
Man, c'est comme descendre en Floride puis prendre un avion pour venir. Là.
Ah ouais, mais c'est ça, mais faut enjoy the ride, hein, c'est ça. Wow! C'est ça l'idée. C'est pas la destination qui est importante.
Djibouti, c'était pas.
Non.
C'était pas attirant?
Pas vraiment. Il y a comme des bases militaires, il y a une coupe de plage, sinon c'est du désert, mais non, il y a pas grand-chose à voir ou à visiter. Puis de toute façon, c'était pas vraiment ça notre plan. On avait vraiment plus envie d'être en Éthiopie. On voulait juste faire le voyage. C'est ça qu'on a fait.
Fait que là, vous êtes revenu, puis comment s'est passé la suite du voyage?
On a passé beaucoup de temps à 10. Moi, j'aime ça, des fois, juste rester dans une ville, puis
ben oui.
Rien faire.
Ouais.
Comme juste aller au café, regarder comment les locaux commandent leur bouffe, aller me promener dans le quartier, demander aux marchands si la business est bonne ces temps-ci. C'est niaiseux, mais moi, c'est le genre de choses que j'adore faire dans une ville. Fait qu'il y a beaucoup de journées où on a juste pas fait grand-chose.
Vous avez erré.
On a erré.
Mais c'est comme ça aussi, tu finis par réellement prendre le pouls. J'imagine, de cette ville-là. Là.
Ouais, je pense aussi. C'est quand t'as pas tout le temps quelque chose à faire, puis quand aussi tu sors des endroits touristiques.
Ouais.
Mais on a fait ça, puis une autre aventure épique qu'on a vécue, c'est qu'on est allé dans le sud du pays. On a fait 8 heures de bus. J'ai vomi, je pense, 3 fois. C'est mon grand drame. Moi, j'ai le mal des transports, toujours.
Non! Le gars qui est tout le temps en train de se promener partout. Mais t'es cool de le faire pareil, ça te freine pas.
Non, ça me freine pas. Mais c'est tough, là. Après, c'est comme sûr. Si j'avais eu la gastro pendant 3 jours.
Ah, c'est sûr.
Mais bref, on arrive là-bas, puis on a rencontré là-bas Bruno Blanchet.
Non!
Puis une équipe de tournage du Québec.
C'est-tu vrai?
Ouais.
Par le plus pur des hasards.
Ben, on savait qu'il était en Éthiopie un peu. On voulait visiter cette région-là aussi. Fait qu'en tout cas.
Est-ce que tu connaissais Bruno déjà?
Non, je le connaissais pas. Phil non plus. Mais on s'est retrouvés. On a participé en fait à un segment dans son show. Là. Lui était là pour les vacances de Bruno.
Ouais, absolument.
De Monsieur Bruno. Puis c'est ça. Puis après, on s'est juste saoulé avec lui. Puis on s'est raconté des histoires toute la soirée.
Arrête, dude!
Ouais.
Bruno Blanchet, man! T'as chillé fucking avec comme ce gars-là est comme. Je le trouve fascinant.
Il est incroyable. Il a une légèreté aussi pour 55 ans, je pense qu'il y a, ou quelque chose comme ça. T'sais, il vit.
J'ai écouté, je sais pas si t'as écouté son entretien avec Dominique Tardif.
C'est un bon podcast aussi,
man,
ça.
Man, mais il est juste comme. En plus, quand tu l'écoutes juste audio, t'sais, il a la même voix qu'il y a 20 ans, 25 ans. Là, il y a une espèce de. Vraiment, je pense que tu as dit le bon mot, une espèce de légèreté. Je le trouve vraiment spécial comme être humain.
Curiosité aussi. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Je l'admirais déjà, mais là, je l'admirais d'une autre façon en passant une soirée avec. Ouais.
Wow.
Puis il y avait toute son équipe aussi qui était là. Puis c'était des boys super smart aussi. Il y en avait un d'ailleurs qui était sur OD.
C'est vrai?
Oui. Je suis pas bon d'un nom non plus. Donc, c'est celui qui était sur l'équipe Voyage.
OK. Est-ce-tu Iliade, le réalisateur?
Non.
Charles Martel, sinon c'est. C'était pas un Sandman?
Oui, je pense que c'était le Sandman.
C'était-tu. Chris, il l'appelle l'aile prince, ce style.
Ouais.
Il y a des manches de tatou.
Ah, c'est ça.
Ben, oui.
Vraiment smart, ce gars-là.
Extraordinaire.
Ouais.
Un vrai chiller. Là.
Ouais.
Ah, oh, wow, man.
Fait que ça a été ça, l'Éthiopie, au final. Ça a été des aventures comme ça. Puis aussi, juste rien faire à 10.
Incroyable. Puis mettons, quand t'es parti. C'était quoi ton feeling par rapport à ce pays-là? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu as espoir finalement avec ce que tu disais tantôt?
Oui, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Là, après, on ne sait plus rien à cause de la COVID, là, on va voir. Mais je pense que si le premier ministre actuel réussit à comme tenir toutes ces forces-là un peu contradictoires, puis opposé dans le pays. Je pense que c'est un pays qui pourrait fonctionner puis qui pourrait réussir à s'émanciper puis aussi à... Parce que c'est quoi l'image qu'on se fait de l'Éthiopie? Hein? C'est la famine qu'on voyait, les images de la famine dans la vision mondiale des années 80. Là. Mais c'est plus ça du tout. L'Éthiopie, ça a changé. Mais c'est pas encore clair si ça va encore continuer à s'améliorer. Fait que, ouais.
Après ce mois-là,
Ouais, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que vers la fin de mon voyage, il restait 2-3 jours. Moi, j'écrivais déjà au Nigeria pour le magazine Billboard, un magazine de musique américain.
Ouais. Comment t'as pogné cette gig-là, mettons?
T'es allé au Nigeria, il y avait besoin de quelqu'un au Nigeria, puis ils m'ont pris.
Mais comment t'as su qu'il y avait besoin de quelqu'un au Nigeria?
Quand j'étais à Londres, j'ai fait ma maîtrise là-bas.
Ouais.
Il y avait un journaliste qui faisait un documentaire sur l'industrie des DJ dans les années 80 dans le monde. Et il cherchait un recherchiste à Londres. Et c'était moi qui a décidé de choisir. Et ce gars-là est devenu l'éditeur international de Billboard. Donc, quand il a su que j'étais là, il a fait « OK, c'est bon. Hein. »
Puis toi, mettons ta culture musicale?
Via Nicolas Ouellet.
Voilà. Qui est la meilleure place, je pense.
Non, mais tu sais, Nick m'a fait découvrir beaucoup de musique, puis j'adore la musique, mais non, je n'étais pas un expert de la musique, surtout pas de la musique africaine, mais je suis capable de raconter une histoire, fait que je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné quand même.
Fait que là, mettons, ton premier papier, c'était sur quoi? T'étais-tu nerveux? C'était quoi le deal, mettons? C'était quoi l'entente?
Je suis toujours moins confiant quand j'écris en anglais.
Ouais.
Je l'ai appris à Londres. J'ai fait une couple d'affaires pour le New York Times à Montréal, puis une couple de médias aussi au Royaume-Uni. Mais ça me prend plus de temps. Et là, en plus, c'était sur l'industrie, la business de la musique en Afrique. Donc, c'était surtout sur... comment ça se place en ce moment, qui est en train de prendre le lead, est-ce que, par exemple, les streaming platforms, je pense que c'était ça mon premier article, c'était, OK, au Nigeria, par exemple, 200 millions de personnes, marché incroyable pour les Spotify, les Apple Music de ce monde, qui va gagner? Il y a aussi des plateformes locales, donc j'ai essayé de démêler tout ça parce que a priori, ça apparaît comme juste une mine d'or, mais là, plus tu grattes, plus tu creuses, puis tu réalises qu'au final, ça va être très difficile quand même, là, parce que oui, il y a 200 millions de personnes, mais là-dedans, il y en a combien qui ont l'argent pour se payer un abonnement à 8 $ ou 10 $ par mois? En Afrique, tu n'as pas nécessairement aussi la culture du membership parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas s'ils vont avoir le même argent dans 1 mois, 2 mois. Donc, les gens préfèrent s'abonner à la semaine ou au mois puis pouvoir annuler lorsqu'ils le veulent, pas sans engagement.
Ouais.
Donc, il y avait ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, au Nigeria, il y a 50 % des gens qui n'ont pas de compte en banque. Donc, comment veux-tu t'abonner à quelque chose en ligne si tu n'as pas de compte en banque?
C'est pas vrai.
Ouais, fait que c'est ces choses-là que j'ai commencé à découvrir à travers Billboard. Puis, je trouvais ça fascinant.
Mais oui.
Puis, je trouvais ça aussi super cool de pouvoir amener un récit positif à l'Afrique. Je me rappelle, c'est con, là, mais moi, j'étais un fan d'OD, là, donc je l'ai écouté. La finale que vous avez faite à Montréal, le père de Kiari, je pense, a dit merci d'avoir amené un visage positif un peu à l'Afrique en montrant aussi ses bons aspects.
Ouais.
Puis j'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça vraiment cool parce qu'il y avait raison, tu sais, même si on est d'accord, là, c'est pas un feature du New York Times que vous avez fait là-bas, mais vous avez quand même amené ça. Puis moi, je trouvais ça cool aussi parce que souvent, moi, je parle de des points qui sont assez négatifs de l'Afrique. Hein. C'est des famines, c'est de la pauvreté extrême, toutes sortes d'affaires qui vont mal. Mais je trouvais ça cool, avec l'industrie de la musique, de parler de quelque chose qui va vraiment bien. Parce que l'Afrobeats...
C'est la fête, là. C'est la folie. Là.
La folie. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment au Nigeria.
Mon meilleur ami Joey n'arrête pas de me faire écouter des trucs. Quand on est en Afrique du Sud aussi, on a découvert quelques artistes sud-africains, des genres de Shoma Josie, qui est comme une Cardi B sud-africaine, qui a comme pris son envol au moment où on était là. On l'a vu en show, nous autres. Là. Puis elle répondait aux stories d'une personne de notre équipe qui la taguait. Puis genre, 2 semaines après, elle était sur un late night américain. Puis on était comme, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe, là, je pense, l'Afrobeat. Là.
C'est fou. C'est complètement fou. Puis moi, ce que je trouvais cool aussi, c'est que je suis arrivé avec une espèce de passeport ultime qui est « Je travaille pour Billboard Magazine ».
Ben oui.
Puis pour ces Nigérians-là, la plupart, ils veulent percer aux États-Unis, ils veulent percer à travers le monde. Donc là, t'as comme un important magazine américain qui s'intéresse à ce que tu fais. Donc j'avais accès aussi à beaucoup d'artistes puis à beaucoup de personnalités là-bas puis à peu près tout le monde dans l'industrie. Donc rapidement, j'ai pu comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'industrie puis écrire aussi là-dessus. Même si, par exemple, c'est super populaire, ils n'ont à peu près pas d'endroit pour se produire. Ça, c'est un enjeu aussi là-bas.
Parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des billets, quoi.
Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de salle de spectacle travers le pays.
Fait que la culture est où?
Bien, les gens, ça va se faire. Le streaming, ça aide aussi beaucoup. Maintenant, les gens ont quand même des téléphones intelligents. Mais avant, c'était un système de piratage de CD. Donc, tu allais dans les marchés publics puis tu peux acheter à peu près n'importe quel CD pour rien, là, pour une pièce ou même pas.
Fait que ça fait en sorte que la culture est relativement jeune, j'imagine.
La culture musicale, je pense que ça doit être millénaire, mais la culture de l'afrobeat en soi, le fait que c'est devenu international, ça, c'est vraiment récent. Là. C'est fou. Là. Meilleure anecdote que j'ai, Burna Boy, qui est énorme. Il était nommé au Grammys cette année. Lorsque j'ai commencé au Nigeria en février, j'ai proposé à Billboard, j'ai dit, ce gars-là, il est énorme. Il faisait déjà, il était comme assez connu dans le monde. Mais Billboard, ils ont fait « Ah non, on n'est pas sûr, pas maintenant pour le profile. » Je voulais juste faire un profile de cette personne-là. 4 mois plus tard, c'est ça. Nommé aux Grammys, Billboard me rappelle en catastrophe. Ils sont comme « T'es encore au Nigeria, il faut absolument que tu fasses son profil. » Puis là, j'ai dit « Ben non, j'étais plus là à ce moment-là. » Mais c'est ça, je trouve que ça témoigne assez bien de la vitesse avec laquelle ça s'est propagé. Depuis un an, c'est partout, c'est imité aussi. Puis même que dans d'autres pays africains, on doit se définir maintenant en opposition à ça. J'ai animé un panel MIDEM, c'est comme un espèce de regroupement de gens dans l'industrie de la musique en France, et puis ils m'ont demandé d'animer un panel sur la musique en Afrique de l'Est. Donc, j'ai reçu toutes sortes de monde, un panel Zoom, là, c'était pas... Ouais. C'était pas le Klondike, là, en termes de comment ça fonctionne. Là. C'est comme, t'as quelqu'un au Kenya, t'en as un autre en Tanzanie, en Afrique du Sud. Bonne chance pour que tout ça fonctionne avec un bon réseau Internet. Mais le contenu est intéressant quand
c'est
même.
C'est clair.
Parce que c'est ça. Ils essaient toujours tous de se définir maintenant en opposition à l'Afrobeat parce que c'est ça dont on parle le plus maintenant de la musique africaine, alors que c'est surtout le Nigeria, le Ghana, c'est en Afrique de l'Ouest, là, l'Afrobeat, c'est pas, okay. C'est pas partout.
Puis les autres veulent pas embarquer dans ce mouvement-là?
Ben, pas qu'ils veulent pas embarquer là-dedans, c'est juste qu'ils veulent aussi avoir leur propre identité musicale, puis il y a toutes sortes d'artistes vraiment intéressants aussi qui émanent de cette région-là aussi.
Fait que là, Afrobeat, c'est un style?
Oui, c'est un style.
OK, qui vient plus de l'Afrique du Nord-Est.
De l'Ouest.
De l'Ouest, OK, ouais. Pardon, j'ai ouais. Complètement pas compris. Et là, mettons, quand tu dis que Burna Boy, mettons, était gigantesque,
ouais.
Mais il pouvait pas se produire, comment ça peut fonctionner?
Ben, il va être populaire avec les streaming, puis aussi surtout avec les diasporas nigérianes à travers le monde. Il allait à Londres, ce gars-là, il était énorme. Là. Il faisait les grandes salles, puis tout ça. Donc, c'est comme ça beaucoup que ça commence à l'international. Ça va être les Nigérians qui habitent à l'étranger, qui s'intéressent à ceux Oui, c'est ça. Mais il a quand même fait comme... Tu sais, il y a une salle, en fait, que je vois là, d'importance au Nigeria pour une population de 200 millions. Là. C'est le Echo Hotel, puis je me demande s'il rentre 2000 personnes dedans. Là.
C'est pas vrai.
Ouais. Donc,
comment ça se fait qu'il n'y a pas de salle?
Ben parce que c'est environ dans la liste des priorités le 500e, la 500e chose à régler à travers le pays. Quand tu as 92 millions d'extrêmes pauvres dans le pays, des gens qui vivent avec moins de 2 $ par jour, lorsque tu as des inégalités pas possibles, juste d'une rive à l'autre de Lagos, tu as des bidonvilles partout, la mortalité maternelle est une des plus élevées au monde. C'est incroyable. Je pense que j'avais fait la comparaison. Là, c'est un truc, j'ai écrit un article là-dessus pour Le Monde. C'était 120 femmes par année en France qui meurent en donnant naissance. Et au Nigeria, c'était autour de 800 par jour.
Ah, oh, tabarnak.
Ouais. Donc, c'est ça. On est à des années-lumière de se dire, hey, on va se construire un éléphant blanc en plein milieu de Québec à 200 millions.
Fuck!
Ouais.
Et tu as été au Nigeria combien de temps?
Ben, c'est ça. Je suis allé 3 fois. 4 mois au début. Je suis retourné un mois en reportage. Puis la dernière fois, c'était en février, tout de suite après l'Éthiopie.
OK.
Ouais. C'est le pays que je connais le plus de l'Afrique. C'est lui que j'ai le plus visité, dans lequel j'ai le plus voyagé. Il n'y a rien à visiter pour vrai, sinon que juste rencontrer les gens.
Puis la vibe là-bas, ça...
Incroyable.
C'est clair. Hein?
Lagos, plus grande ville d'Afrique. On ne sait pas s'il y a 14 ou 21 millions de personnes dans la ville.
Ah, tabarnak.
Personne ne sait vraiment. Petit écart de 7 millions, juste la population du Québec, tu sais, environ. C'est fou, là. C'est incroyable. Quand tu rentres à Lagos, c'est vraiment une ville qui t'accueille pas. C'est pas une ville où tu te sens le bienvenu quand tu mets les pieds dans cette ville-là. C'est du chacun pour soi. C'est le chaos. C'est un chaos organisé. C'est incroyable. J'ai tout aimé de cette ville-là. tout son chaos. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Est-ce que tu l'as aimé même au début, quand tu dis qu'elle ne t'accueille pas? T'es shaké, là. Je veux dire, t'arrives, tu te promènes, tu sais pas où aller.
Non, effectivement. T'es tout mêlé. Mais bon, en même temps, j'avais lu beaucoup aussi sur la ville. Mais c'est juste, par exemple, la route entre l'aéroport puis ce qu'on appelle les islands, donc les îles, c'est peut-être une trentaine de kilomètres. En dépendant du trafic, ça peut prendre 2-3 heures pour se rendre. Donc, c'est une folie, là. Il y a du trafic partout. C'est juste des bouts d'autoroute. Fait que, imagine-toi, là, comme 3-4 autoroutes de suite, puis là, tu te promènes d'un à l'autre, un à l'autre, puis là, il y a des marchés, il y a du monde partout qui passe au travers des voitures. Ça avance pas vraiment vite parce qu'il y a trop de voitures pour l'espace qu'il y a. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, il faut que tu passes le Third Mainland Bridge parce que la ville de Lagos est divisée en deux. T'as les îles où sont les riches, t'as un pont de 11 km qui est le plus long d'Afrique et de l'autre côté, t'as ce qu'on appelle le mainland, qui est où habitent la plupart des gens qui sont pauvres, donc à Lagos. Donc, c'est ça, Lagos. Fait que t'as tout dans cette ville-là. T'as l'extrême richesse, t'as du monde, là, ils habitent dans des mansions, des trucs pas possibles. Mais de l'autre bord aussi, t'as juste des bidonvilles sur le bord de la lagune, en plein milieu de l'eau. J'étais allé me promener là-dedans aussi. C'est du monde qui vivent sans électricité, qui ont rien à faire, tout ça. Donc, qui ont pas de travail, pas de toilette. Qui menace d'être expulsé par la ville. Vraiment, les pires conditions de vie que tu peux t'imaginer en ce moment sur la Terre.
Puis eux, mettons, quand tu vas à leur rencontre, sont-ils ouverts à te parler?
Oui. C'est ça, on a comme une impression, ah, Nigeria, danger. Lagos, pas du tout. Moi, je marchais dans la ville souvent. Bon, c'est pas beaucoup de monde qui le font parce que la plupart viennent avec des organisations ou avec des compagnies privées puis ont des restrictions de sécurité assez élevées. Mais dans les faits, c'est pas vraiment dangereux. Moi, je me promenais beaucoup à pied dans la ville, puis tout le monde vient de parler. C'est vraiment cool.
Et les gens qui sont très, très riches, j'imagine que c'est eux qui ont le pouvoir puis qui font en sorte qu'il n'y a rien qui fonctionne?
Oui, le Nigeria, ça pourrait être un pays qui fonctionne bien parce qu'ils ont des réserves énormes en pétrole.
C'est ça.
Mais comme dans plusieurs pays dans le monde, c'est l'élite qui s'est enrichie, qui reste au pouvoir, puis qui redistribue très, très mal ces richesses-là.
Puis, mettons, j'en parlais avec mon père récemment là, de tout ça. Là. Puis, évidemment que, pour moi, un dude de la Rive-Sud qui a des parents, tu sais, respectueux puis gentils, qui travaillent fort, puis que, tu sais, on est au Canada, là, fait que, tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la réalité du Nigeria, mettons. Mm-hmm. Mais les... Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, qui gardent toute la richesse puis qui laissent les gens dans la rue... Qu'est-ce qui les pousse à être comme ça? Je veux dire, mettons que t'es milliardaire. On dirait que j'ai de la misère à... ils ont aucune humanité, ils ont aucune bonté, ça leur est éduqué. Je comprends pas.
Ben, c'est un système, hein? C'est pas juste un individu. Donc, dans des pays comme ça, où t'as 200 millions de personnes et où c'est difficile, je pense qu'il y a quand même un peu de chacun pour soi. Donc, je pense que lorsque t'arrives à une position de pouvoir, tu te dis, ben, je vais essayer d'en profiter le plus possible. C'est aussi pas tout blanc, tout noir. Il y en a quand même qui essaient de pousser dans le bon sens de l'histoire. On n'entend pas toujours parler de ces histoires-là, mais ça existe. Mais quand le système est là, je pense que les gens essaient de sauver leur peau puis aussi de faire le plus d'argent possible pour leur famille et tout ça. Donc,
puis rendu au point où ils en sont, je veux dire, à un moment donné, c'est tellement dur, j'imagine, de défaire ce modèle-là.
Oui, c'est ça aussi. Même si tu veux, par exemple, président, mon Dieu, je me mêle toujours, là, ouais. Mais le président nigérian en ce moment, Mohamed Buhari, est reconnu pour ne pas être corrompu. Donc, il y en a eu beaucoup des chefs d'État corrompus au Nigeria, mais lui ne l'est pas. Mais même s'il ne l'est pas, autour de lui, il y a plein de gens corrompus. Donc, c'est là que je te dis que c'est quand même un système qui est très difficile à défaire. Et aussi, je pense que la capacité d'un peuple à accepter la corruption fait en sorte que parfois, il y a des pays qui sont plus corrompus que d'autres. Puis là, c'est facile à dire comme ça, mais exemple concret, au Québec, parce qu'on a entendu parler du scandale ici de la construction, on s'est tous comme assez révoltés. Il y a eu une commission d'enquête et puis maintenant, ça a donné d'autres standards. C'est vraiment plus facile dans une société organisée puis homogène comme la nôtre, mais je pense que la tolérance d'un peuple par rapport à la corruption, ça permet à des leaders ou non de s'en mettre plein les poches.
Puis j'imagine aussi que c'est dû au fait qu'on est une société beaucoup plus jeune.
On est une société surtout plus avancé sur le plan des institutions. Exemple très précis, dans des gouvernements autoritaires, il y en a qui c'est, il y en a pour qui c'est plus, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays où c'est vraiment plus facile d'imposer un régime autoritaire que d'autres. L'automne passé, dans tous les voyages que j'ai faits, je suis allé en Hongrie. Là-bas, tu as un gars, il s'appelle Viktor Orban. Lui, il a pris une jeune démocratie, hein, un pays qui était dans l'Union soviétique, puis ça faisait peut-être comme 30, 40 ans que c'était devenu un pays indépendant, qui s'était doté donc d'institutions démocratiques, donc des juges, hein, des médias assez indépendants, tout ça, des élections libres. Et tranquillement, pas vite, il a mis en place un pouvoir autoritaire. Donc, il a nommé ses amis comme juges. Il a donné tous les contrats publics à ses amis aussi, qui sont passés donc de gens assez normaux à milliardaires dans le pays. Ces gens-là ont acheté les médias indépendants. C'est devenu une presse de moins en moins libre. Et donc, en 10 ans, Viktor Orban s'est retrouvé à être à la tête d'une Hongrie qu'il dirige plus ou moins de manière autoritaire. Là. Même s'il y a des élections, il emmène large. Là. J'ai jasé avec... j'étais allé rencontrer Michael Ignatieff, là-bas, l'ancien chef du Parti libéral. Ouais,
qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Il gouverne l'Université européenne centrale de Hongrie. Donc, il est comme... recteur voilà, de l'université. Sa femme est hongroise, donc il est allé s'installer là-bas, puis on en jasait beaucoup, puis c'est exactement ce qu'il me disait. Alors que dans un pays comme les États-Unis, où Trump, c'est la même chose, si on le laissait faire ce qu'il veut, il ferait exactement la même chose qu'Orban en Hongrie, mais parce que c'est une démocratie beaucoup plus mature, les contre-pouvoirs sont plus forts. Mm-hmm. Lorsque Trump décide qu'il veut, je sais pas moi, qu'il veut s'en prendre à la presse, ben le New York Times, ça fait 100, 120 ans qu'ils sont là, puis c'est pas vrai que demain matin, ils vont décider de suivre la ligne de Trump, puis ils vont pas non plus se faire acheter par un ami de Trump. Le pouvoir judiciaire aussi est là, est capable de
tenir tête.
De tenir tête, à Trump. Même chose pour l'opposition, hein, Nancy Pelosi, les démocrates, ils sont encore puissants, ils ont encore de l'espace médiatique puis un pouvoir à travers le pays. Donc, je pense vraiment que c'est ça. C'est vraiment plus facile dans une jeune démocratie où il n'y a pas de traditions qui ont été implantées depuis vraiment longtemps, de faire un peu ce que tu veux au pouvoir. Mm-hmm. Puis nous, je crois qu'on fait partie de cette espèce de pays-là, espèce de groupe de pays-là qui peut qui a une démocratie assez mature, ouais, au final, puis qui, même si un leader dit quelque chose, ben c'est pas tout le monde qui va le suivre, puis il y a des contre-pouvoirs qui sont là aussi. Fait que Jean Charest puis les partis libéraux, même si à un moment, ils ont décidé de donner des contrats peut-être à des financiers du Parti libéral, ben on s'en est rendu compte, puis il y a personne qui a payé pour ça. Mais au moins, c'est une pratique qui est plus possible. Ouais. Puis on a changé les règles, surtout, financement politique.
Fait que l'Afrique, mettons, qu'on... Y a-tu... Ça va-tu se pouvoir, mettons? Y a-tu un mur qui s'en vient, selon toi?
Je pense que ça dépend vraiment de où tu vas en Afrique. Il y a quelques endroits où ça va bien, puis je pense qu'il y a d'autres endroits où ça se passe vraiment, vraiment pas bien. Au Mali, il y a eu un coup d'État il y a une semaine ou deux, mais en même temps, l'Éthiopie, c'est un cas qui est quand même assez encourageant. Il y a d'autres pays aussi dont on parle pas, la Botswana, entre autres, le Ghana, c'est des pays qui vont relativement bien en ce moment. Puis aussi, je pense que juste collectivement, même si on s'en rend pas compte, il y a des avancées importantes qui se passent dans le monde. Je voyais ce matin la polio éradiquée de l'Afrique. C'est incroyable, là. Il y avait comme 75 000 cas au début des années 80. Il n'y en a plus en Afrique. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a de moins en moins de pauvreté dans le monde. Il y a de moins en moins...
Ah oui, hein?
Oui. Ben, après, là, ça, c'est tout dans un monde avant la COVID. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas du progrès qui va avoir été perdu à cause de ça. Mais oui, on vit dans une espèce de fausse perception que les choses vont mal, mais la réalité, c'est qu'on est juste beaucoup mieux informé sur ce qui se passe. Si jamais il y a une bombe qui éclate en plein milieu du Yémen, en 15 minutes, on a les images aux nouvelles. C'était pas le cas avant. Donc, on voit plus la misère qu'avant, mais il y en a quand même pas mal moins qu'avant.
OK. Est-ce que tu es déjà allé à Beyrouth?
Oui, je suis allé à Beyrouth. Je suis allé à Beyrouth en 2016. J'ai tout aimé de Beyrouth. C'est incroyable comme ville. Puis c'est fou parce que j'étais dans la première soirée où je suis arrivé avec un ami. On a décidé d'aller dans un club qui était à environ 2 km, je pense, ou 1 km de où tout a explosé. Fait que sans le savoir, on dansait, nous, en plein milieu de la nuit, ciel ouvert. C'était magnifique comme endroit. Puis il y avait une bombe à retardement juste à côté.
Mm. Comment t'as, toi qui as vécu, tu sais, qui a été là, mettons, comment t'as reçu ça, cette nouvelle-là?
J'ai été évidemment attristé, c'est terrible, mais je pense que j'ai pas été non plus très surpris. Puis surtout, j'ai pas vraiment cru au complot ou à l'attentat terroriste. Pour moi, c'était de la négligence crasse parce que on se parlait tantôt de des régimes où l'élite essaie de s'en mettre plein les poches puis se fout un peu de la population. C'est un peu ça qui se passe au Liban depuis plusieurs années. Mmh. J'ai un ami qui travaille pour les Nations Unies au Liban. En novembre passé, il y avait 100 000 $ dans un compte. La banque, il a dit, tu ne peux plus y toucher. Tu n'appartiens plus à cet argent-là. Puis depuis ce temps-là, il n'a jamais retrouvé cet argent-là. Donc, parce que c'est ça, la banque n'arrivait plus à se faire payer par le gouvernement. Donc, ils ont décidé de juste geler les finances publiques de plein de gens, comme mon ami. Et là, il se retrouve où la banque, il a dit, je pense récemment, on peut te donner 40 000, mais le reste, tu ne le reverras pas. Donc, voilà. Bon, c'est la misère des riches. Tu me diras, là, il y a beaucoup d'argent, mais reste que ça je te parle surtout de ça pour te dire que c'est ça. C'est un état qui allait un peu nulle part. Puis surtout, je vois mal une solution à ce qui peut se passer au Liban parce qu'il y a beaucoup de forces qui s'opposent là-bas.
Lesquelles?
Au Moyen-Orient, il y a deux géants. Il y a l'Arabie Saoudite et il y a l'Iran. Tout le monde tire un peu sa couverte dans un pays comme le Liban et essaie d'influencer le pouvoir là-bas. C'est ce qu'on appelle des guerres proxy. Donc, c'est deux pays qui décident de se faire une guerre, mais dans un autre terrain de jeu où ils n'ont pas vraiment... Personne ne va mourir de leur camp, si tu veux. Donc, par exemple, Hezbollah est très... qui est un groupe terroriste... Et lui, il est financé par les Iraniens. Mais les Saoudiens aussi ont plusieurs jeux dans leurs cartes. Je me rappelle, il y a comme un an ou deux, le premier ministre libanais avait disparu. Et puis là, on l'avait retrouvé une semaine ou deux plus tard en Arabie Saoudite. Puis il l'avait clairement kidnappé.
Hein?
Oui. Et il avait fait une annonce à tout le monde pour dire, une annonce publique pour dire, ouais, dans le fond, je vais juste démissionner maintenant. À partir de l'Afrique, de l'Arabie Saoudite, c'était super étrange comme truc. Ouais. Donc, on peut penser que le premier ministre libanais était contrôlé déjà par l'Arabie Saoudite. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça. C'est à côté de l'Israël. Donc, ça sera vraiment pas facile de reconstruire ce pays-là. Puis surtout d'en faire une démocratie viable parce que c'est comme un système politique étrange là, où il y a des sièges qui sont réservés en fonction de la religion. Donc, il y a les chrétiens, il y a les sunnites et les chiites qui ont chacun une espèce de nombre. Je pense que c'est calculé en fonction du pourcentage de ta religion dans le pays.
Okay.
Donc, ça devient un peu des histoires de comme... Bon, OK, les chiites, ça va être telle famille qui va diriger les sièges dans le Parlement, les chrétiens, même chose. Donc, ça devient un peu encore cette élite-là. Donc, je vois mal comment on peut juste tout mettre ça à terre. En tout cas, j'ai pas vu vraiment de solution encore par rapport à ça. Donc, j'ai aucune idée où ça va s'en aller. Mais c'est juste évidemment plate, comme dans toutes les autres situations. C'est le peuple qui paye à la fin.
Ouais, c'est ça. Caroline.
Ouais.
Fait que la religion est encore très, 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 très... comme forte, puis après ça, est-ce qu'il y a encore une question de pétrole là-dedans? Puis...
Ah, pas au Liban. Non, ça, je le pense pas. Pas dans ce coin-là. La religion... en fait, c'est ça. C'est que ce qui est plate aussi, c'est que le Liban, c'est un des endroits les plus libres au Moyen-Orient. C'est-à-dire que, par exemple, une femme peut très bien se promener en jupe dans une rue à Beyrouth. Tu peux aller chercher de l'alcool au dépanneur. Donc, il y avait quand même une tolérance envers la différence. Chose que tu ne revois pas dans beaucoup de pays musulmans ou du Moyen-Orient. Donc ça c'est dommage. J'espère qu'on ne va pas perdre ça aussi, là, l'espèce de liberté de cette ville-là. Mais je sais... Non, c'est ça. J'ai aucune idée où ça va s'en aller. Ouais.
Puis, mettons... Tantôt, t'as parlé de Trump un peu, les élections s'en viennent. Je sais aussi que t'avais possiblement, je sais pas si on peut en parler, mais l'idée d'avoir un emploi. C'était quoi la job que t'allais pas peut-être avoir?
Oui, c'était conseiller politique et économique au gouvernement américain ici à Montréal.
C'est comme quand tu m'as écrit ça, je savais même pas par où commencer mes questions tellement. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un conseiller politique ici?
C'est
pour les Américains.
Parce qu'eux, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis donc, ils ont besoin d'un Québécois, quelqu'un qui comprend bien ce qui se passe ici, pour leur donner des informations sur c'est ça, les aspects économiques puis politiques. C'est aussi clair que ça, okay, pour la diplomatie qu'il allait faire.
Il y a un bureau ici, c'est à l'ambassade?
Oui, il y a un consulat ici à Montréal.
OK.
À Montréal, donc c'est un peu comme ça. Finalement, je me suis retiré du processus d'embauche. J'étais rendu à la fin à l'entrevue, mais je me suis retiré parce que...
Ça doit être quand même intense comme processus.
Oui, oui, oui. C'était très, très long. Ça a duré comme 2 mois, je pense. Mais c'est ça, je me suis retiré, mais j'aurais pas eu de problème à le faire parce que c'est pas nécessairement lié à Trump, c'est plus le Foreign Service, là. Donc c'est dans... Puis moi, je crois beaucoup à la diplomatie américaine à travers le monde, là. Je la préfère à la diplomatie chinoise ou à d'autres diplomaties où on essaie d'un... finalement dont on se fout des droits humains. Au moins, les États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont quand même été les garants des droits humains à travers le monde depuis une couple de décennies, là. Même s'ils en ont commis aussi plein des atrocités, là, c'est pas ça.
Ouais, ouais.
Mais il y avait ça. Donc, ouais, j'aurais pas eu de problème à avoir ce job-là, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait encore plus.
Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui t'attirait dans le fait de conseiller possiblement de loin Trump ou du moins la politique américaine?
Ce qui m'attirait, c'est ça, l'idée de participer à cette démocratie-là qui est à travers le monde. C'était aussi de comprendre comment fonctionne la diplomatie américaine. Ça, j'aurais trouvé ça full intéressant.
Mm-hmm.
Puis toujours pouvoir, d'une certaine façon, promouvoir les intérêts québécois aux États-Unis. T'sais, si je peux permettre à des deals de se faire entre des compagnies québécoises puis américaines, pourquoi pas?
Mais ouais.
Donc, c'est ce genre de choses-là que j'aurais pas à y faire. Puis c'est intéressant aussi d'être dans les coulisses du pouvoir un
ben
peu.
Ouais.
J'aurais rencontré plein de monde, puis compris d'une autre façon ma société.
C'est fou.
Ouais.
C'est fou, man. En plus, tu racontes ça tellement calme. Moi, juste l'idée de possiblement appliquer, c'est-tu le stress que ça aurait pu impliquer. Comment tu vois novembre 2020 avec les élections? Est-ce que tu penses qu'elles vont avoir lieu? Est-ce que...
Très bonne question, ça, hein?
Tu penses-tu qu'il va être capable de les repousser?
Non, je pense pas, mais je pense qu'il aimerait ça parce qu'il est en train de perdre. Je pense que c'est l'événement politique le plus important de 2020, cette élection-là. Je pense qu'il faut absolument que Donald Trump perde parce que ça a des impacts extrêmes sur la politique étrangère puis sur comment le monde fonctionne puis par où on s'en va comme peuple international, mettons.
Oui. Est-ce que tu penses que Joe Biden est un bon candidat?
Bien, je pense qu'un élève de secondaire 5 serait probablement un meilleur candidat que Donald Trump. Donc,
ouais.
Peu importe c'est qui, oui. Je pense que Joe Biden a quand même beaucoup d'expérience. Je pense qu'il peut au moins amener de la stabilité pour 4 ans. Donc, non, je pense pas que ça peut être pire que Donald Trump. C'est une vraie catastrophe en politique étrangère, surtout. Là, moi, c'est à ça que je m'intéresse le plus. Bon, récemment, on peut y donner peut-être la paix entre Israël et les Émirats arabes unis. Bon, c'est peut-être un gain en politique étrangère, mais sur tout le reste, c'est une catastrophe. Quand il est allé voir Kim Jong-un, ça n'a rien donné. En 4 ans, la Corée du Nord a continué à se nucléariser. Avec la Chine, c'est un affrontement qui mène à peu près nulle part non plus. Il y a tellement d'enjeux avec l'Iran. On a passé proche d'une guerre sans vraiment de raison apparente. En tout cas, il y en a là, des enjeux. Là, c'est, ça finit plus.
En plus, c'est que ça a eu un impact aussi même dans les rues. On dirait que avant les gens haineux ou racistes ou comme sexistes ou je sais pas, étaient un plus gênés peut-être ou je sais pas. Là, on dirait que ça a comme permis... Ah, ben si notre président est de même, on peut nous aussi, là, tu sais. Puis je trouve que ça a eu tellement de répercussions humaines, tu sais, genre à tous les niveaux, là.
Unleash the beast.
Ouais, c'est ça.
The beast, ouais.
C'est terrifiant.
C'est fou, hein?
C'est terrifiant.
Puis au Québec, on en voit déjà des répercussions, je pense, avec les complotistes en ce moment. Est-ce que tu suis ça? Moi, c'est ma nouvelle passion.
Non, j'en entends parler un peu, mais c'est quoi qui se passe, mettons, pour ceux qui connaissent pas, là?
Ben, écoute... Je pense que pour la première fois, les complotistes ont de la traction au Québec. C'est-à-dire qu'ils font des chiffres. Moi, il y en a un que je suis, entre autres, là, Alexis Cossette-Trudel. Il fait 100 000 views là, par vidéo YouTube. Là. C'est comme n'importe quel YouTuber populaire, mettons, ouais, chez nous. Donc, je trouve ça assez fascinant. Puis évidemment, le gars, il dit n'importe quoi, mais c'est pas important parce que il apporte des solutions faciles à des problèmes très compliqués pour le monde. Des gens qui se sentent aussi, je pense, très exclus du monde dans lequel on peut vivre, qui comprennent mal comment ça fonctionne pour vrai. Donc, c'est une secte au final, hein. C'est, je pense aussi. Là, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont malheureusement vulnérables à des idéaux comme ça, puis qui embarquent là-dedans. Mais je pense que je vois pas de différence entre les complotistes du coronavirus, de la 5G, et être dans la scientologie ou dans n'importe quelle autre secte qui va te dire une histoire, qui va te raconter une histoire fictive, mm-hmm. mais qui est facile à comprendre au moins pour toi.
Mais puis ça en dit long aussi sur nos dirigeants, ou du moins il y a quelque chose où visiblement il y a un manque d'inspiration à quelque part pour que les gens finissent par suivre quelqu'un qui dit n'importe quoi.
Ben j'imagine. Honnêtement, je sais pas, mais écoute, même discuter avec eux, c'est pas quelque chose de possible parce qu'ils ont déjà leur propre conclusion. Donc évidemment, si toi t'arrives avec une autre version de l'histoire, je pense pas que ça va les intéresser tant que ça. Ils vont trouver des raisons pour te dire que t'as tort. Donc c'est un débat intéressant à savoir est-ce qu'on doit en parler, par exemple, dans les médias ou pas. Je le sais pas. J'ai aucune idée si c'est une bonne chose parce que regarde, Trump, et à chaque fois qu'il disait des niaiseries, les médias on les ont repris puis il a fini par être élu président des États-Unis. Donc, puis après, ils vont crier à la censure si t'en parles pas, là.
C'est ça.
Ouais. Lucie Laurier, on l'a perdue?
Oui, mais elle a pas l'air de bien aller.
Je sais pas, mais honnêtement, écoute, c'est difficile de parler de ces gens-là parce que je les connais pas personnellement.
Ouais.
Mais ce que je sais, par exemple, c'est tout ce qu'ils disent. Ce sont des profonds mensonges et des niaiseries.
C'est ça. J'ai l'impression que, aussi, cette année, j'ai l'impression que la fragilité de la santé mentale de tout le monde, tu sais, ça a été fragilisé, qui fait en sorte que j'ai l'impression que ça. Je suis comme inquiet pour bien du monde. Il y a quelque chose, je trouve, de. Faut vraiment, vraiment exagérer. La bienveillance les uns pour les autres, j'ai l'impression. Tu sais, fait que mettons, Lucie Laurier, je la suis pas personnellement, tu sais. Mais ce que j'entends sur elle, j'aime pas comment les gens parlent d'elle non plus. Tu sais,
non,
je fais comme,
ça.
Y a-tu quelqu'un
ouais.
qui check si elle est correct? Y a-tu quelqu'un? Ouais. Peut-être que c'est pas cool ce qu'elle dit, peut-être que ça a aucun rapport, je sais pas quoi. Puis t'as le droit de pas être en accord. Mais est-ce que quelqu'un se soucie de sa santé? Y a-tu quelqu'un qui est là? Après ça, je veux dire, je fais ça pour mes proches, là. Je peux pas commencer à faire ça pour tout le monde, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est à feu et à sang en ce moment, là. Tu sais, c'est comme ouais. vraiment intense.
Ah, surtout sur les réseaux sociaux, hein. Moi, la haine sur les réseaux sociaux, là, je suis pas un fan tant que ça, là. Je publie mes choses, mais j'essaie de pas embarquer dans tout ça parce que ça finit jamais. Mais pour le coronavirus, ce que je trouve fascinant dans ce qu'ils peuvent dire, bon, ils vont dire n'importe quoi, mais en gros, ils vont dire que c'est un conflit, ou en tout cas, c'est comme arrangé avec le gars des vues, là. Je me dis, mais dans quel monde l'élite mondiale qui a été la plus impactée à la base du coronavirus, parce que c'est du monde qui voyageait partout, c'est du monde qui profitait du système à fond, là, comment ouais. il fonctionnait, pourquoi il aurait décidé de, du jour au lendemain, shut down tout ça? En tout cas, ça fait pas vraiment de sens. Mais bon, mm-hmm. faut pas trouver de la logique là-dedans, là. Donc, ouais.
Qu'est-ce que tu penses de la vice-présidente qui a été nommée par Joe Biden? Est-ce que tu trouves ça cool? Est-ce que tu penses que les Américains sont prêts pour ça?
Oui. Je pense que ça se peut. Ça a vraiment l'air d'une femme impressionnante avec un super beau parcours. Je trouve ça juste drôle parce qu'on parle beaucoup de son côté afro-américain, mais en fait, elle est diversifiée de... Pas diversifiée, c'est pas le bon mot, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a deux backgrounds aussi parce que sa mère, je pense, est indienne puis son père est jamaïcain. Donc, ce serait aussi la première femme asiatique, je pense, à devenir vice-présidente des États-Unis. Donc, juste, c'est un détail, mais je trouvais ça cool aussi.
Ben ouais.
On n'entend pas beaucoup parler de cet aspect-là. Puis, parce que les Asiatiques, on n'en a jamais parlé aux États-Unis, mais c'est une minorité aussi qui est victime de plein de préjudices puis de préjugés.
Oui,
clairement, tu sais, beaucoup. Donc, voilà. Donc, je trouvais ça cool aussi pour ça. Donc, ouais, c'est ça. Mais écoute, j'ai plein d'aventures africaines à te raconter.
Vas-y,
Dieu,
man.
Là, des
vas-y,
affaires.
vas-y.
Ben, écoute.
Est-ce que tu veux me raconter avant. C'est quoi les pays que tu as fait avant d'aller en Afrique? Ou tu veux qu'on jase? Moi, tout
ah,
ça, ça
oui.
m'intéresse.
Ah oui, attends, non, j'ai une bonne histoire pour toi.
Vas-y.
J'étais juste avant de partir, en septembre, on m'a invité à aller au Haut-Karabakh.
C'est où ça?
C'est exactement ce que je me suis dit quand on m'a invité à aller là. J'avais aucune idée c'était où le Haut-Karabakh. Donc, j'ai regardé sur une map et c'est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, c'est dans le Caucase, OK?
OK.
C'est une ancienne région donc, qui appartenait à l'Empire soviétique.
Qui t'invite là-bas?
C'est ça. Le Parti communiste de... de l'Arménie. C'est un parti qui n'a jamais pris le pouvoir en 100 ans, mais qui a deux missions. La première, c'est la reconnaissance du génocide arménien par les Turcs. Et la deuxième, c'est la reconnaissance du Haut-Karabakh, qui est une région administrative qui s'est autodéclarée indépendante, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais dont à peu près personne ne reconnaît officiellement l'indépendance pour des raisons politiques à travers le monde. Donc, ils m'ont invité là-bas parce qu'ils sont comme, on veut des politiciens. Il y a des politiciens qui sont allés aussi, ils organisaient comme un colloque, puis dans le fond, ils payaient les dépenses aux gens. Fait que moi, j'étais comme, bon, je me demandais si j'avais un problème éthique avec ça, mais bon, je me suis dit, tant que je le déclare ouvertement que les dépenses ont été payées par ce parti-là, qui n'est pas au pouvoir de toute façon, qui est juste un groupe de pression ultimement, pas de problème avec ça. Donc, je suis allé, puis j'ai fait une couple de reportages là-dessus, mais...
Là, t'es parti tout seul?
Oui, oui, ben c'était dans mon voyage de comme parce que l'automne passé, c'est ça, j'ai fait comme 8 pays. Je suis parti en Suède, après en Hongrie, puis après, j'étais allé au Karabakh, puis donc c'était comme après ça. Donc c'est ça. Donc, j'arrive là-bas, je débarque en Arménie, puis ils sont vraiment géniaux, les gens qui m'accueillent, ils m'amènent. Puis là, on a comme 5 heures de voiture à faire, puis il faut que j'aille prendre mon visa aussi de ce pays-là qui est pas qui est fictif finalement, mais bon, on m'a demandé d'aller faire un visa. Donc, je vais faire le visa et on part dans les montagnes, c'est magnifique. 5 heures de route et on arrive au Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est dans les montagnes, c'est vert, c'est vraiment beau, c'est le Caucase. Il y a 150 000 personnes qui habitent là. Puis eux, ils veulent être un pays, ultimement. Mais il y a une frontière militarisée où, d'un côté, tu as les soldats du Haut-Karabakh qui sont soutenus clairement par les soldats arméniens. Puis de l'autre côté de la frontière, tu as les soldats arméniens, Azerbaïdjan. Puis dans le fond, les deux pays disent « c'est à nous ce territoire-là ». Bon, c'est pas exactement ça. L'Arménie dit le Haut-Karabakh devrait être un pays et ensuite décider s'il veut joindre l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan dit non, c'est à nous, le Haut-Karabakh.
Et le Haut-Karabakh, pourquoi ils veulent être indépendants?
Ils veulent être indépendants parce que pour eux, c'est une question d'identité, d'histoire.
C'est une autre culture.
Exact, c'est une autre culture, c'est une façon de vivre. Mais donc, ce que je trouvais intéressant, c'est juste d'aller dans un pays qui se dit indépendant, mais qui n'est pas indépendant. Donc, qu'est-ce que ça change pour le monde de vivre dans un pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, donc qui n'existe pas vraiment? Puis, c'était fascinant, là. J'arrive là-bas, entre autres, on m'a fait visiter l'aéroport. Il y a un aéroport là-bas, mais il n'y a pas de vol. Donc, il est vide. Pourquoi? Parce que l'aviation internationale, dont le siège social, d'ailleurs, est à Montréal, ne reconnaît pas cette région-là comme un pays. Donc, ils n'ont pas le droit de faire des vols internationaux. C'est pour ça que la seule façon de rentrer dans le pays, c'est que tu atterris en Arménie, puis tu chauffes. Tu fais 5 heures de voiture pour t'y rendre. Donc, ça, c'est un exemple. Après, j'ai rencontré un gars, il faisait des conserves d'une espèce de sauce tomate là, locale, une version locale avec certaines épices. Et il en exportait dans plein de pays d'Europe. Mais il me disait, par exemple, que récemment, son site s'est fait hacker par des Azerbaïdjanais. Puis là, ils ont mis comme d'autres photos sur son site pour dire que dans le fond, il appuyait l'Azerbaïdjan. En Russie, il s'est fait bloquer. Ou c'est en Ukraine, je pense, il s'est fait bloquer à cause que l'Azerbaïdjan a dit, ben si vous enlevez pas ces produits de vos tablettes, ben nous, on fera plus d'affaires avec vous. Fait que l'espèce de politique autour de ça aussi. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères du Haut-Karabakh. Hein? Je te le rappelle, il n'est pas vraiment un pays encore. Fait que c'était super intéressant aussi de jaser avec ça. Il y avait comme de quoi de surréel. Je pouvais pas aller à la ligne militarisée, donc à l'espèce d'affrontement entre les deux armées.
Quand tu dis une ligne militarisée, ça ressemble à quoi physiquement?
Ben c'est ça. C'est imagine-toi juste un espèce de no man's land d'environ 100 mètres, puis de deux côtés, tu as des soldats, puis de temps en temps, ils se tirent dessus. Donc, ça arrive, là. Oui, il y a des snipers qui vont aller tirer des gens. Normalement, c'est supposé être une espèce de cessez-le-feu qui existe, qui est en vigueur, mais de temps en temps, il est brisé par un des deux pays. Donc, il y avait ça. Mais je suis aussi allé rencontrer un général qui, justement, me montrait cette ligne militarisée-là. Donc, c'est comme ça que je peux t'en parler de celle-là, parce que j'ai bien vu c'était quoi un peu la distance entre les deux armées. Puis, écoute, c'était surréel. Il s'est mis à montrer des vidéos de la dernière... il y a comme eu une guerre, puis il y a eu des affrontements. Là, il y a une dizaine d'années de ça, je pense. Non, c'est pas vrai, c'était 2016. Bref, couple d'années, il y a eu des réels affrontements entre les deux armées. Puis là, il me montrait, mettons, le best-of de ça. Non. Là, tu vois, genre, le tank Azerbaïdjan. Puis là, il est comme, checkman, il va sauter. Puis là, ils font exploser
non.
le tank. Puis là, il est comme là, puis il est vraiment content. Puis, en tout cas, je trouvais ça comme assez fou de voir ça.
Shit.
Surtout de voir sa réaction et tout ça, ouais. Ouais, fait que ça c'était vraiment une expérience surréelle, mais j'ai tout aimé en même temps de ce pays-là.
C'est bien fascinant.
Ouais. Puis c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi c'est pas vraiment reconnu par la communauté internationale. C'est
pourquoi?
Je pense que c'est vraiment juste plus simple de pas le reconnaître, parce que c'est comme une situation où là, ça va plus ou moins bien dans le sens qu'il y a un cessez-le-feu, puis donc il n'y a pas toujours des affrontements. Et si jamais un pays important décidait de le reconnaître, par exemple la Russie, ben c'est probablement que le pays qui serait en défaveur de cette décision-là serait pas content, puis donc ça créerait d'autres problèmes ultimement. Donc je pense que ça fait l'affaire de tout le monde de faire « bon, mais laissons ça comme ça ». Pour l'instant, il n'y a personne qui se tire trop souvent dessus. Puis that's it.
Astique, j'ai l'impression là, que c'est comme... On est jeune, mais j'ai l'impression qu'on est rendu loin dans l'histoire quand j'entends parler de politique, tellement c'est rendu compliqué.
Plusieurs endroits, oui. Effectivement, tu as raison. Tu as tellement raison. Il y a tellement d'endroits où on ne sait pas vraiment par où prendre le problème.
Ouais.
Conflit israélo-palestinien. Pour vrai, genre, je connais les grandes lignes, mais... Je ne sais plus, tu sais, je sais plus comment ça peut se régler, ce conflit-là. Même plusieurs, mais avant, pendant 30 ans, c'était OK, on va le two-state solution. Fait qu'on va avoir l'État palestinien, on va avoir l'État israélien, that's it. Plusieurs experts maintenant qui disent que c'est plus nécessairement ça la solution. Pas sûr de comprendre c'est quoi la meilleure des solutions à partir de là. Donc, ouais, le monde est très, très complexe et de plus en plus, effectivement. Ouais.
Mais là, tu as visité une place où ça semble du moins beaucoup plus calme, la Suède?
Oui, la Suède, j'avais gagné une bourse de logique pour aller participer à un colloque sur l'avenir des médias.
Man, ta vie, là, elle est extraordinaire. Comme, t'as tellement comme de... C'est tellement varié. Je trouve ça fascinant.
Ouais. Écoute, je suis aussi un joueur de spikeball.
Oui, je l'ai mentionné dans l'intro.
Ah ouais? Écoute, on joue au spikeball. Moi, je suis là, je suis nu-pied. Je suis comme deux, trois fois, j'ai joué. T'arrives, toi, avec tes crampons. Mais t'étais bon. T'étais bien meilleur que
mais
moi.
Mais tu sais, moi, je suis invité au gala artiste. Je suis pas invité à aller en Suède avec une bourse. Je suis pas invité dans un pays qui n'existe pas encore. T'sais. Fait que chacun ses trucs. Il y en a un qui a l'air plus glamorous que l'autre, mais je pense pas que c'est celui qui l'est réellement. Fait que là, t'arrives en Suède. Pourquoi?
Un colloque internet, c'est ça, c'était organisé par l'UNESCO, puis ils m'ont demandé d'aller faire un panel là, finalement. Fait que j'ai animé un panel sur l'avenir des médias, puis sur comment les fake news puis l'information se transmet par rapport à ça. Ouais.
Depuis les
initiatives prises par l'UNESCO par rapport à ça. Ouais.
Comment ça se fait que tu me sembles être quand même une figure importante mondialement? Ben, dans le sens, tu t'animes des panels...
Ailleurs
dans le monde.
Ouais. Ben écoute, je sais pas, là, c'est juste que j'ai eu la bourse de logique, là. C'était ça l'idée, c'était pour avoir. Bon, il aimerait pas ça que je dise ça, mais c'était que ça payait mon billet pour aller en Europe déjà. Fait que j'étais bien content. Ouais. Puis en même temps, j'étais comme cool, je vais aller faire cette conférence-là. Puis c'est eux, ils ont juste vu mon CV, puis ils ont fait, hey, peux-tu animer un panel pendant que t'es là? C'est comme
malade.
Ça que ça s'est passé. Midem, c'est parce que j'écrivais pour Billboard, donc ils ont dit, ben, anime notre panel sur l'Afrique de l'Est. Donc,
ouais.
C'est des opportunités comme ça qui se présentent à moi.
C'est quand même varié.
Oui, vraiment. Ça, c'est quand même fou. Puis je suis content de ça aussi, de me mettre tout le temps en danger, puis d'aller dans des zones où je suis pas prêt, pantoute, où je connais rien. Quand je suis arrivé au Karabakh, tout était nouveau. Mais on dirait que quand je pense à comme qu'est-ce que je veux faire dans la vie, je trouve que. C'est con, là, mais ça sonne un peu comme un adolescent qui vient de lire Gandhi, là, tu sais. Live your life like if you will die today,
ouais.
But learn like if you will live forever. Mais c'est con, mais c'est comme ça, pareil, que je vois ma vie. Je suis super chanceux, tu sais, je fais ce que j'aime, puis j'essaie tout le temps de juste me remettre en question, puis de me mettre dans des zones où je suis pas super confortable, puis je vis des affaires, puis c'est ça qui se passe.
Mais c'est incroyable! Le kid du Saguenay... Mm. Fils de restaurateur, man, qui est rendu à animer des panels partout dans le monde, à visiter, tu sais, à être invité. C'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment admirable. Je trouve ça vraiment cool.
Merci, man. C'est bien smart. Mais écoute, je sais pas où ça va s'en aller, tout ça, là. Moi, j'essaie d'y aller une expérience après l'autre.
Je sais que j'ai comme. Je comprends, mettons, qu'on mette des caméras à OD, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que tu aies tout le temps une caméra, toi, genre qui te suit, parce que toi, t'es fascinant. Fait que là, t'arrives en Suède, ouais. T'es là combien de temps?
Je suis resté 5-6 jours, je pense, en Suède, c'est tout, à Jutebure, qui est comme une ville dans l'ouest.
J'ai un ami qui m'a parlé, mon ami Victor a étudié en Norvège et en Finlande dans les derniers mois, puis il a dû revenir à cause de la COVID. Puis il m'a parlé de comment ces pays-là fonctionnaient. Puis il y a quelque chose de super comme attrayant en termes de services publics, en termes de... Ils payent beaucoup d'impôts, mais en même temps, tu sais, les kids vont pas à l'école avant 8 ans. Puis, tu sais, comme si tu veux jouer au hockey, tout le monde a des patins puis un bâton. Il y a quelque chose de très... Il semble beaucoup redonner à la population. Après ça, par contre, il y a aussi quelque chose comme de froid... où le small talk n'existe pas, sont pas particulièrement intéressés à l'autre, sont comme fermés sur eux-mêmes. Il y a une espèce de... quelque chose de cool, mais il y a quelque chose aussi que j'ai pas catché ou qui m'attirait beaucoup moins. T'as-tu senti ça?
Bien, on arrive tout le temps dans un pays avec nos a priori puis comment on voit le monde. Donc, moi, je connais pas si bien ces pays-là, sauf que ce que je sais, c'est que ce qui me fascine, moi, quand j'arrive, c'est que tout fonctionne.
C'est ça.
Il y a rien. On dirait qu'il y a comme pas de problème en surface. C'est sûr qu'ils ont leurs problèmes, mais... tout va bien, les tramways sont à l'heure, puis tout le monde va travailler, puis tout le monde a l'air quand même d'avoir un certain niveau de vie décent. Donc, c'est plus ça que je vois, mais sincèrement, sur leur culture, je pense que ça varie aussi d'un pays à l'autre en Europe du Nord, mais non, je peux pas t'en parler plus que ça, je sais pas, mais clairement, ce sont des pays qui ont pris des voies plus égalitaires, puis je trouve ça génial. Mm-hmm. C'est souvent à eux aussi qu'on se compare au Québec, puis je trouve ça bien.
Ouais.
Je trouve ça cool qu'on se compare à des pays comme ça.
Ouais. Fait que là, après la Suède, t'es allé en Hongrie?
Oui, c'est ça, en Hongrie, où je suis allé rencontrer Michael Niassev, puis où je suis allé faire des reportages pour la presse, puis j'ai-tu parlé à Radio-Canada? Je suis même plus sûr. Je pense que oui. Donc, un peu sur ce qui se passait là-bas avec le tournant autoritaire du pays, puis du premier ministre.
Est-ce que les gens soulèvent leur mécontentement face à ça?
Pas tant que ça, c'est ça. Puis c'est dans un monde où... il n'y a plus de possibilité que les juges fassent bien leur travail ou les médias sont de plus en plus muselés. J'ai rencontré quelques journalistes indépendants, mais leur « reach », entre guillemets, est tellement minime dans un pays où les télés sont contrôlées par le gouvernement. C'est très difficile de faire valoir un récit opposé à celui du gouvernement en place. Puis c'est ce qui fait qu'ils sont aussi durs à déloger aussi, ces gouvernements-là, je pense.
Mais c'est clair, parce que là, mettons, un bon citoyen qui est rempli de bonnes intentions et... c'est dur d'aller chercher la bonne information.
Exact.
Puis toi qui as animé un panel sur les fake news et tout ça,
ouais.
Ta perception de tout ça, ta lecture de ça?
Ben écoute, je pense qu'il y en a toujours eu. C'est juste que là, ils sont plus facilement accessibles, les fake news. Je pense qu'au 16e siècle, je suis convaincu qu'il y avait toutes sortes d'histoires complètement fausses qui existaient dans les communes à Paris. Mais là, c'est juste que n'importe quel niaiseux peut la créer de toute pièce. Donc, je pense qu'il y a ça. Ça fait que c'est plus facile pour tout le monde d'y adhérer aussi. Puis ça va plus vite aussi. En comme 2 semaines, une fake news peut devenir un mouvement.
Mais c'est comme terrifiant là, de penser que justement, une petite niaiserie faite d'un sous-sol peut finalement comme avoir rapport avec les élections. Là. C'est terrifiant.
Ouais, c'est terrifiant. J'aime pas vraiment la direction politique dans lequel le monde s'en va en ce moment. Il y a de moins en moins de démocratie dans le monde. J'ai vu un rapport récemment. Ça,
c'est vrai?
Oui, ça a diminué. La Chine prend de plus en plus d'espace. Moi, c'est vraiment un pays qui me fait très, très peur.
Pourquoi?
La Chine me fait peur parce que, un, elle se fout complètement des droits humains. On peut voir ce qu'elle fait aux Ouïghours, entre autres, dans son pays, qui est une minorité musulmane. C'est vraiment Big Brother.
Ah ouais?
Ouais.
C'est quoi? Ouïghours?
Les Ouïghours, ouais.
Ouïghours.
C'est une minorité, donc, musulmane, mais c'est plus que ça, là. Ils ont aussi leur propre culture, puis toutes sortes de choses. Et y a littéralement des camps de concentration culturelle où plusieurs personnes sont envoyées. Il y a des vidéos, entre autres, qui ont été mises en ligne, où on voit plein de monde rentrer dans des trains. Puis c'est des camps de rééducation, là, qu'ils appellent.
Non.
Ouais, il y a ça qui se passe en ce moment dans une partie de la Chine. T'as pas le droit, par exemple, d'appeler ton enfant Mohamed en Chine. T'as pas le droit, je pense, avoir une barbe plus longue que je sais pas quoi. Il y a toutes sortes d'enjeux qui se passent avec ça. Ce qu'ils font aussi avec les libertés des autres pays, ils bafouent les droits internationaux aussi. Il y a deux Canadiens en ce moment emprisonnés en Chine. Les deux Michael, ce sont deux personnes qui ont été faussement accusées, ou en fait, on le sait pas, mais probablement faussement accusées d'espionnage en Chine, et puis qui ont juste été mis en prison par le gouvernement chinois. C'était en réponse à une décision qu'on avait prise ici au Canada. L'histoire Huawei, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, là, c'est vraiment un truc compliqué, là, mais je peux te faire
rapidement le
petit briefing. Mais donc, il y a deux ans, on a décidé, à la demande des États-Unis, d'emprisonner une dirigeante du groupe Huawei, qui est comme un géant des télécommunications, pour espionnage, je pense. Mais bon, ça a été fait ici. Et donc, en réponse à ça, la Chine a dit, ben, si vous faites ça, nous, on va emprisonner deux Canadiens de manière arbitraire comme ça. Et puis, ces gens-là sont encore en prison. Parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Alors qu'ici, il y en a quand même plus. Là. Donc, ouais. Même si Trudeau disait aux tribunaux « relâchez-la », ça se ferait pas. T'sais.
C'est pas de même que ça marche.
Ouais, c'est pas de même que ça marche dans un état de droit. Mais c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que de plus en plus, comme ils sont un peu partout, quand les Américains rentraient dans un pays, souvent c'était « OK, on va vous donner de l'argent, on va vous aider à comme construire votre économie, ou on va prendre aussi vos ressources, mais en tout cas plein d'affaires, mais en même temps, on exige que vous mettez une certaine forme de démocratie puis de droits humains. Beaucoup d'institutions comme ça, comme la Banque mondiale et tout ça, qui demandent le même genre de truc. Mais à l'inverse, les Chinois, c'est purement économique, donc ils ne regardent pas ces questions-là. Puis moi, je pense que ça fait que le monde ne s'en va pas dans une bonne direction quand les leaders du monde se foutent complètement des droits humains. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Puis aussi, ben, juste à l'intérieur des frontières, c'est ça, de la Chine. Le niveau de... Je pense que maintenant, tu as comme une espèce de note là, publique là, en Chine. Un
ouais.
peu. T'as-tu déjà vu Black Mirror?
Ouais, ouais, ouais.
Même chose. Là.
Shit.
Ouais.
Une chance que tu es là pour m'éduquer un peu. Merci.
Non, mais je trouve ça cool qu'on puisse jaser aussi de toutes ces questions-là puis que tu me donnes l'opportunité. Je sais que je t'en avais parlé la dernière fois, mais je trouve ça tellement cool que tu prennes ce temps-là plutôt que juste, mettons, faire une pub de savon, que tu fais comme, hey non, tu sais, je vais inviter du monde pas tellement connu au Québec, mais qui ont peut-être d'autres choses à dire aussi, ouais. qu'on entend peut-être moins souvent dans
ben,
les médias.
Je te remercie de prendre ce temps-là, ouais. parce que moi, mettons, c'est un moment précieux dans ma semaine ou dans mon mois. Puis, en tout cas, merci. Je connais peu de choses, mais je sais que ma curiosité demeure grande. Puis on dirait que je cherche différentes manières de m'éduquer. Puis
ouais.
par la bande, ben c'est t'es mon enseignant. Puis tant mieux. Je pense que ça intéresse du monde en plus. Fait que tant mieux.
C'est pour ça que tu le fais? Ouais.
Ça part d'un désir très égoïste de genre, je reçois du monde qui m'intéresse moi. Puis c'est ça. T'sais, j'ai commencé aussi à... Puis c'est pas que, mettons, tu sais, j'ai recommencé, c'est la deuxième fois que tu viens. Il y a quelques personnes dans les dernières semaines qui sont revenues une deuxième fois au podcast. C'est pas que la liste des gens qui m'intéressent est courte. C'est aussi une question de temps. Puis c'est une question de connexion, tu sais, de faire comme, ah, ben là, j'ai invité telle personne, mais j'aimerais se recevoir. T'sais, je veux dire, je t'ai reçu toi, puis après ça, j'ai reçu ton frère, qui est un mm-hmm. journaliste indépendant, puis de commencer à creuser aussi dans différentes directions, parce que là, on dirait que j'ouvre des nouvelles portes de « Oh mon Dieu, je connais pas ça. T'sais, qui se pourrait recevoir, qui pourrait me parler de telle affaire? » T'sais, il y a quelques semaines, j'ai reçu Estelle Cazelet, qui est une sexologue, qui m'a été référée par Rosemée, au Tonté Morin. T'sais, mais Estelle, je la connaissais pas, mais finalement, elle est venue s'asseoir ici, ça a duré 2h30, il a fallu qu'on s'arrête, parce que j'avais autre chose à faire dans ma journée, mais ça aurait pu durer 4h, puis j'ai l'impression que là, c'est la même affaire. T'sais. Fait que là, après... la Hongrie, c'est là que t'es allé faire une petite passe au
Karabakh.
Au Karabakh.
Ouais.
Ensuite, c'est là que t'es parti en Afrique?
Je suis allé en France une semaine et après, je suis allé en Italie 10 jours avec mes parents. Première fois qu'il allait en Italie, mes parents ils ont un resto italien pendant 30 ans. Donc,
là, ça, c'était à quel moment?
Je sais pas, là, ça faisait peut-être un mois que j'étais parti, un mois et demi.
Fait qu'octobre, mettons, l'année passée.
Ah oui, c'est ça.
Fait que juste avant que le coronavirus est arrivé en Italie, quoi, en janvier?
Février, je pense.
OK, OK,
ouais,
OK.
C'est vrai, okay. Ouais. Quand même une couple de mois d'avance. Mais ouais, c'était cool. On est allé à Sorrento, qui est le nom du restaurant.
À tes parents?
Ouais, c'est ça, qui est une ville en Italie. affaire la plus random au monde. Je marche sur la rue principale, je vois un gars, je fais, écoute, il travaille à Radio-Canada, ce gars-là. Hein? Je le connaissais pas, mais je fais, hey, salut, salut. C'est super awkward, on se connaissait pas, mais je connais ton visage, tu connais mon visage.
Wow!
Ouais, ça, c'était drôle. Puis non, sinon, c'était juste vraiment un beau moment en famille, tout le monde ensemble. Mon frère aussi était là, sa blonde, en tout cas, ouais.
OK.
Ouais, ça, c'était cool. Puis après, je suis retourné après au Nigeria pour la deuxième fois faire une série de reportages. J'allais dans le nord du pays, entre autres. Ça, c'était malade à Kano. C'est pas loin, justement, de la frontière avec le Niger, qui est juste au nord-est. Ouais. Et donc, ça, c'était vraiment cool parce que c'est un autre Nigeria. C'est un Nigeria qui a rien à voir avec Lagos, puis avec les clubs, puis avec l'espèce de décadence de cette ville-là. C'est comme une région beaucoup plus pauvre, beaucoup plus désertique, musulmane. C'est là qu'est Boko Haram aussi, donc le groupe terroriste qui avait enlevé, entre autres, 500 jeunes filles il y a 5 ans, 500 étudiantes, puis qu'il en reste, je pense, 250 ou 200 qu'on n'a jamais retrouvés. C'est contre eux que le gouvernement nigérian mène une lutte à travers ses frontières. Donc, le Nigeria n'a pas le contrôle total de ses frontières. Il y a encore, justement, des groupes terroristes comme eux qui sont là.
Eux, ils revendiquent quoi?
Je crois qu'ils veulent faire un État islamique, un peu dans le même genre, mais il y aurait certainement d'autres choses aussi à ajouter, là, mais... voilà, je leur parle pas souvent, fait que je sais pas exactement
hein,
ce qu'ils ont à dire. Mais ouais, ça c'était vraiment cool.
Puis là-bas, les gens, ils ont-tu peur? Ils ont-tu espoir? Sont-tu inquiets?
Ben écoute, moi j'ai fait le portrait là-bas d'une scientifique qui essaie tant bien que mal de mesurer les impacts du réchauffement climatique dans sa région du monde. Puis c'est sûr que c'est dans des conditions difficiles que ça se fait. Sur le campus universitaire, un ou deux ans avant, il y avait eu un attentat terroriste.
Fait que c'est en reconstruction?
Oui, c'est ça. Donc, il y avait ça. Il y a le fait aussi que là-bas, c'est la polygamie. Donc, être une femme là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Je veux dire, elle, c'était une femme. Elle avait tout réussi dans la vie. Là. Elle avait 5 enfants. Elle était reconnue par la communauté internationale pour son travail scientifique. Pourtant, elle vivait dans une situation où son mari avait aussi une autre femme. Donc,
c'est polygame juste pour les hommes.
C'est ça. C'est là le problème. Mm-hmm. Sinon, il n'y aurait pas de problème.
Ouais, c'est ça.
Les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais quand ça se passe dans une situation comme ça, ouais, je pense pas que c'est fair. Donc voilà. Donc, écoute, est-ce que les gens ont peur? J'imagine que certains ont peur. D'autres se disent c'est comme ça qu'on vit. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ouais.
Mm-hmm. Ouais. Est-ce que les jeunes sont conscients?
Je pense que tu es conscient de ton environnement. Je pense que j'ai pas parlé à toutes les jeunes, tu sais, je peux pas savoir, mais je pense que peu importe dans quel... En tout cas, moi, ce que j'ai découvert là, à voyager, c'est toujours peu importe dans quel monde tu vas, les gens, ils font avec ce qu'ils ont. Fait que tout le monde, il y a des valeurs universelles. Là. Les gens, ils veulent une bonne job, ils veulent être capables de nourrir leur famille puis essayer de vivre en paix. Mais à partir de là, tu vis avec ce que tu connais. Moi, quand j'étais au Saguenay, là, j'étais tout jeune, là, j'avais aucune idée de ce que le monde avait à offrir, mais j'étais très heureux. Là. Je ne savais pas là, que je manquais toutes sortes de choses qui se passaient à travers le monde. Moi, je vivais mon bonheur, puis bon, j'étais quand même plus aisé que le trois quarts de la planète, mais reste que je pense que c'est ça. Les enfants, je ne suis pas sûr qu'ils sont toujours conscients non, de des fois qu'ils vivent dans le fin fond du monde, puis dans des situations vraiment de misère assez plates. Ouais.
Est-ce que j'ai vraiment pas fait autant de voyages que toi, là, mais ces voyages-là, tu sais, des fois aussi, c'est un an plus tard ou deux ans plus tard ou des mois plus tard que tu réalises tout ce que ça t'a amené. Tu sais, là, tu viens de me mentionner une couple de trucs que ça t'a appris sur les autres, mais sur toi, sur ta manière de vivre, qu'est-ce que ça a changé de voyager autant?
Des fois, il y a des flashbacks de des instants, des moments que j'ai passés avec des gens qui me reviennent, puis que là, qui me font juste réaliser, évidemment, de mon privilège puis ma chance. Mm-hmm. Une de ces choses-là, c'est un reportage que j'avais fait dans l'est du Nigeria, et j'avais passé une journée avec une jeune fille qui vivait dans la rue parce qu'elle avait été traitée de sorcière par sa mère, puis elle avait été rejetée. Puis donc, c'était ça, puis avec elle, on est allé voir aussi les 200 autres enfants qui vivaient comme ça. Dans sa ville. Eux, ils vivent tous maintenant dans un dépotoir. Donc, tu peux t'imaginer juste un groupe d'enfants, de 200 enfants, c'est ça, qui n'avaient pas vraiment d'endroit où vivre puis qui vivent dans un dépotoir. Pour moi, c'est comme l'exemple ultime de la misère du monde. Mm-hmm. Puis, ouais, des fois, j'ai des flashs de ça puis je fais, hey, on est tellement des années-lumière. Puis, ce que je trouvais tough aussi, c'est que même si je jasais, même si on a passé la journée ensemble, même si elle est comme à vie dans une ONG, puis je veux dire, ultimement, il n'y a rien qui va se passer avec cette jeune fille-là. Même si je voulais faire là, ce que je peux là, pour l'aider, il n'y a rien qui va améliorer sa vie. Il y a des bonnes chances qu'elle vive toute sa vie dans la rue ou qu'elle meure assez jeune parce qu'elle pogne la malaria puis elle ne peut pas se faire soigner ou des affaires de même. Fait, c'est plus des flashbacks comme ça que je fais. Ah ouais, OK, tu sais. Puis moi, des fois, je chiale parce que je peux pas voyager ce temps-ci. Fait que c'est plus dans ce sens-là que ça m'a transformé, je pense, parce que ça me donne plus peut-être de perspective sur mes problèmes à moi, puis sur comment je vois le monde, puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça ultimement, parce que j'ai pas été profondément transformé. J'ai commencé à voyager, j'ai toujours voyagé, mais de manière plus intense, quand je pense que mon identité était déjà formée. J'avais déjà comme 23, 24 ans quand je me suis mis à voyager un peu plus. Donc, je ne suis pas viré bout pour bout. Mais
j'imagine quand même qu'il y a quelque chose, sans que ça change tout, mais j'ai l'impression que dans tes conversations avec tes amis, avec ta copine, avec ta famille, avec un jour peut-être des enfants, j'imagine que tes éducations vont être teintées de cette humanité-là puis de ces expériences-là.
Tout le temps, c'est ça. Ça me suit à tous les jours dans tout ce que je vois dans ma vie puis comment aussi je réfléchis à une situation. Ce qui est le fun, je trouve, c'est de les comparer. Donc, par exemple, quand je suis arrivé au Pakistan, je trouvais que tout était incroyable, j'avais jamais vu des histoires comme ça. Puis là, après, ah non, tu sais, avec le Nigeria, finalement, de la pauvreté à ce niveau-là, il y en a aux deux endroits, de la richesse crasse aussi, une élite qui a probablement eu plus de chances que moi dans la vie, même si elle vient d'un pays en développement qu'on appelle. OK, ouais, c'est normalement, c'est comme un pattern peut-être plus humain que culturel, géographique. C'est des liens comme ça que j'aime faire puis qui me permettent aussi, c'est ça, de mettre en perspective la société dans laquelle je vis ici au Québec puis de voir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien. Moi, quand je suis parti d'ici, j'avais l'impression, tu sais, on m'a appris toute ma jeunesse que le Québec, là, c'était vraiment hot comme endroit puis qu'on avait une histoire tellement extraordinaire, collective. Puis là, tu voyages, tu fais « OK, ouais, non, c'est vraiment un super bel endroit, le Québec. Je suis très, très fier de venir d'ici. J'ai aucun complexe par rapport à mon identité. » Mais c'est pas vrai qu'on a une histoire qui est comme plus extraordinaire qu'ailleurs, même que à plusieurs égards, je trouve qu'elle est un peu triste, notre histoire, de la manière dont on a traité les Premières Nations, entre autres, les peuples autochtones. Puis de la manière même encore aujourd'hui, comment on traite nos minorités alors qu'on est supposé être une société avancée. Moi, je trouve que ça, c'est on l'échappe bien raide. Donc c'est ça.
On l'échappe beaucoup, puis surtout, on l'échappe dans nos enseignements, tu sais, c'est que c'est relativement récent que moi, mettons, là, j'entends parler d'à quel point tu sais, comme ça nous a pas été tant que ça éduqués, j'ai l'impression. Il me semble que j'aurais été révolté, j'ai l'impression, plus jeune, d'apprendre qu'on les a tassés comme ça. Mais on dirait que ça m'a pris du temps à réaliser ça puis faire, voyons, tabarnak, faut vraiment wake up, là, faut vraiment bouger, là.
Moi, j'étais pas bon à l'école, donc. Disclaimer, là, ça se peut que ce que je dis, c'est pas vrai, mais ce que je me rappelle de l'enseignement qu'on m'a fait, c'est qu'on partait l'histoire il y a 400 ans quand les Blancs sont arrivés ici. T'sais. Puis ça, je trouve que c'est complètement faux.
C'est juste ça.
À quel moment tu pars ton histoire? T'as parti il y a 400 ans ou t'as parti il y a 18 000 ans quand les premiers peuples sont arrivés ici?
C'est ça.
Puis je trouve que ça manque évidemment d'inclusion, notre façon de voir le monde. Puis aussi, on a clairement un rapport traumatique avec l'anglais au Québec. Puis ça m'apparaît un peu weird. Tu sais, ma blonde, entre autres, qui chante en anglais, c'est toujours ça. C'est toujours, pourquoi tu chantes en anglais? C'est comme s'il fallait qu'elle le défende toujours, alors qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut. On n'a pas un Suédois pourquoi il se met à chanter en anglais, ni à un Belge non plus. On s'en fout, tu sais, dans plein d'autres sociétés. Mais ici, c'est un rapport très malsain, je trouve, avec la langue anglaise. On a toujours peur qu'on se fasse envahir, alors qu'on a mis les institutions en place pour la préserver, notre langue française. Puis même si tu regardes les stats, ça va, là, tu sais, on la protège bien, notre langue.
Ben, moi, le premier, je me fais souvent, je suis quand même chanceux, là, mais je me fais pointer du doigt des fois ici dans le podcast, ça dépend qui je reçois, mais moindrement, je reçois quelqu'un qui parle un peu franglais, j'ai le réflexe un peu de suivre cette affaire-là, puis de, même moi, mon français est assez bilingue, tu sais, mais c'est représentatif de l'époque à laquelle j'ai grandi, de l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans une école, tu sais, j'étais dans une école francophone, mais dans une classe qui était à moitié anglophone. Mes amis parlent anglais entre eux. Comme année, je trouve que aussi, c'est juste de. C'est taper ses doigts de quelqu'un, c'est comme, hey, c'est ça mon monde, de quoi tu parles? Puis, je trouve que des fois, je trouve qu'on se soucie pas assez du français écrit. On se soucie énormément de la langue qu'on va parler dans la rue, alors que de base, c'est un slang. De la manière qu'on va parler en français, ce n'est un beau slang, puis c'est fucking nice. Mais moi, ce qui est important, c'est. Tu l'écris-tu, ta langue? Tu sais, comme. Là, je trouve que. Moi, Mané, je m'étais mis une micro-règle dans ma tête quand je répondais encore aux messages qu'on m'envoyait. Mané, je m'étais mis à mettre une règle de s'il y a une faute de français, je réponds pas. Puis je répondais plus à personne. Même chose pour les statuts Facebook que je trouvais drôle ou whatever. S'il y a une faute de français, je likerai pas. Ouais. À un moment donné, c'est comme, mais c'est partout.
C'est rigide, ton approche.
Ben après ça, c'est comme, je trouve que c'est rigide, mais tu vois, ce que je trouve rassurant du podcast, c'est que, et c'est pas une joke, les messages que je reçois en lien avec le podcast, le niveau de faute de français est vraiment minuscule.
Ah ouais, hein?
Il y en a vraiment, vraiment drastiquement moins. Fait que...
Avis à tous.
Oui, mais c'est rassurant de faire comme, ah, OK, c'est probablement pas les gens qui écoutent le podcast qui commentent le plus sur les réseaux sociaux dans les messages de haine puis tout ça. En fait, j'ai vraiment espoir que c'est complètement l'inverse. S'ils sont rendus à ce point-ci dans cette conversation, c'est que c'est des gens habituellement que j'ai comme espoir en ces gens-là. Fait que...
Mais je pense qu'il y a un clash générationnel, là, clairement, là, par rapport à la langue. Là. Quand je voyage, là, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Des fois, je parle avec des étrangers, puis ils me demandent, OK, quel genre de trucs vous faites à la maison? Puis je leur montre, genre, dead obese, puis je leur montre des choses comme ça, puis ils trouvent ça malade. Là. Même les Français, entre autres, là, à qui je montre un peu les rappers qui chantent en franglais, là, ils trouvent ça magnifique. Là. C'est ouais. Beau là, qu'on en soit là. Donc, je sais pas pourquoi on voit ça des fois comme un désavantage ou un complexe.
Mais puis tu vois, mettons, tu prends Christine and the Queens, mettons, qui est française, puis qui fait des tunes complètement français, des tunes complètement en anglais, des tunes bilingues, et c'est pas du tout un problème. Puis elle rayonne partout à l'international. Puis c'est parfait, là. Tu sais, c'est célébré. Moi, je trouve que moi, je suis tellement content qu'on soit bilingue parce que de base, je trouve que ça démontre une ouverture à l'autre, ça démontre une intelligence, une curiosité. Tu t'es éduqué, tu sais. Mon neveu écoute que de la télé et des films en anglais. Il y a 6 ans, il parle mieux anglais que moi, ou presque, puis il jump d'une langue à l'autre. Puis si ma sœur et sa famille sont en Floride en vacances, puis qu'il entend des... Il était kid, là, il avait 3-4 ans. Là. Il entend des kids dans la piscine parler anglais, puis il a le réflexe d'aller voir « Hey guys, will you play? » Puis c'est comme « Christ, c'est un enfant, man! » Mais après ça... Ça revient à communiquer. Tu sais, comme, c'est quoi qu'on veut? C'est quoi l'idée globale de la vie? C'est de communiquer, de partager, de connecter les gens avec les autres, tu sais.
Ah, puis c'est un handicap si tu sais pas parler anglais. Là. En 2020, là, tu veux voyager ou tu veux juste comme conquérir le monde à ta façon. Ça peut être en ouvrant une business, ça peut être en faisant de la culture, peu importe, mais il faut que tu sois capable de communiquer avec le reste de la planète. Puis ça donne que c'est en anglais. C'est bien plate parce que nous, on a un traumatisme avec, mais ça reste cette langue-là qui est utilisée par à peu près tout le monde sur la planète, donc il faut suivre là. Là-dessus. En tout cas, ça m'apparaît un faux débat même, ouais. J'ai envie de dire.
Ouais, je suis d'accord. Ensuite, là, t'es au Nigeria pour plusieurs reportages.
Oui. Surtout pour Billboard aussi, là, j'ai écrit d'autres trucs pour eux quand j'étais là-bas. Ouais.
Et ensuite?
Le monde. Puis après, je suis juste allé passer une semaine à Barcelone avec Laurence.
Ouais.
Puis après, on est revenu à la maison. Puis après, je suis reparti, c'est ça, en février pour l'Éthiopie. Puis un petit loop au Nigeria aussi. C'est ça, quand j'étais en Éthiopie, Billboard ont fait « Hey, tu peux-tu retourner au Nigeria juste nous faire le profile d'un producer là-bas? » Puis je suis allé 3 jours, mais là, c'était tout un enjeu. Parce que rentrer au Nigeria, c'est vraiment pas facile. Tu peux pas juste faire, OK, visa de touriste, merci, bonsoir, t'arrives dans le pays.
Pourquoi?
Il y en a pas. Il y en a pas encore. C'est des pays où ils contrôlent vraiment les allées et venues des gens. De toute façon, il y a personne qui va en tourisme au Nigeria. Donc, ça te prend un business.
Ils doivent commencer à te connaître. Toi encore! Qu'est-ce que tu fais ici?
Ah non, mais cette fois-là, c'était vraiment épique. Parce que moi, j'ai mon frère aussi, d'ailleurs, OK, je suis pas tout seul. On a tendance à souvent, mettons, trafiquer un peu les faits lorsqu'on arrête. On doit entrer dans un pays où on n'a pas vraiment le droit d'entrer. Donc, on se raconte une autre histoire. Donc, cette fois-là, il fallait que je rentre sur un business visa. Donc, que je trouve une façon de dire pourquoi je viendrais dans le pays. Puis, j'ai un fixeur là-bas, donc un journaliste nigérian qui m'a aidé. Puis, il m'a dit, il faut juste que tu trouves une job et une raison pourquoi tu veux venir. Donc, moi, j'ai dit que j'étais le propriétaire de Sorrento Pizzeria à Chicoutimi. Et que j'envisageais vraiment d'ouvrir une nouvelle pizzeria à Lagos.
Oh, j'adore ça! Ouais. J'adore ça!
J'étais donc un business investor. Et je venais voir avec mes partenaires d'affaires, c'était une bonne chose. C'est logique, non?
Oui.
Donc, c'est comme ça que je suis rentré au Nigeria.
J'adore ça!
Ouais.
Ah, oh, c'est fucking badass!
Ouais.
Chris et Hot. Puis là, t'as été rencontrer le producer?
Ouais, j'ai ça, puis après j'ai publié une couple d'affaires pour eux. Ben, en fait, c'est que quand je suis revenu avec la pandémie, j'avais comme rien à faire au Québec. Donc, j'ai écrit une couple de papiers pour eux sur même de Montréal, sur l'industrie de la musique. J'ai fait un truc, Soul King, tu vois, tu sais qui, c'est comme un gros rappeur français, là, énorme, énorme. Il est algérien à la base, donc j'ai écrit aussi un truc pour eux là-dessus, sur comment ça se passait en Afrique du Nord, parce qu'on entend moins parler de cette musique-là. Mais tu sais, le gars, il fait 150 millions de views environ par vidéo qui sort sur YouTube. Là. C'est incroyable.
C'est gigantesque.
Ouais, il y a des parties du monde. Là, les stats sont juste pas de rapport parce qu'il y a tellement de monde qui les écoute. Un musicien nigérian qui est comme pas vraiment connu va avoir un 30, 50, 100 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Là. C'est ça, c'est complètement fou. Là. Les chiffres n'ont pas de rapport. T'sais, quand tu as 200 millions de personnes dans ton pays, une fois que tu es connu, c'est facile que tu montes à 3-4 millions de personnes qui te suivent sur Instagram. Là.
C'est clair. Ça parle quelle langue au Nigeria?
La langue officielle, c'est l'anglais. C'est une ancienne colonie britannique. Puis, tu as environ 500 autres dialectes à travers le pays en fonction de l'ethnie, tout ça, et ton appartenance culturelle. Donc c'est ça. Ça dépend vraiment. Mais la langue d'usage, là, c'est l'anglais. Dans les films aussi, puis dans la musique, Ça va surtout se faire en anglais. Mais c'est ça. Mais écoute, moi, j'espère vraiment juste que je peux continuer à retourner en Afrique assez longtemps parce que je trouve ça tellement incroyable comme continent. Comme je te parlais de la marche de l'histoire, mais je trouve ça aussi fou parce que c'est super dur d'un point de vue personnel. Parce que quand j'arrive en Afrique, j'arrive pas les mains vides, là. Moi, je suis l'homme blanc, tu sais. Mm-hmm. Je suis... Quand je suis allé au Congo, je suis le gars qui coupait des mains aux pauvres Congolais qui coupaient pas assez, eux, de rubber pour, en tout cas, des pneus puis tout ça. Quand je m'en vais au Nigeria, ben je suis le colonisateur britannique aussi avec lequel il y a une autre relation. En France, c'est le colonisateur... dans les pays francophones d'Afrique, c'est le colonisateur français qui tire les ficelles politiques encore aujourd'hui dans le pays. Donc, c'est super important aussi d'être conscient, je trouve...
De ce que tu représentes.
De ce que tu représentes, oui, quand tu vas en Afrique. Puis le vrai challenge aussi, c'est quelle histoire n'a pas encore été racontée par l'homme blanc qui va en Afrique. Il y en a plein, là, des récits là, de voyages de ces gens-là. Donc, c'est quand même très challengeant à savoir. Par exemple, je me suis mis, là, j'ai essayé d'écrire des affaires sur toutes mes aventures africaines. Puis des fois, je fais comme, on a-tu vraiment besoin d'entendre encore ma parole? Ou est-ce qu'on n'est pas ailleurs aussi? Donc, je me pose aussi souvent ces questions-là, puis j'en ai pas de réponse. Je pense que j'ai le droit à ma parole aussi, mais en même temps, on l'a beaucoup entendu, donc c'est toujours d'essayer de trouver une façon de se renouveler là-dedans. En tout cas, je trouve que c'est des sujets qui sont intéressants aussi.
C'est fucking intéressant, puis j'imagine qu'avec ton nouvel emploi, tu vas être invité à retourner, j'imagine.
C'est ça. Fait que là, je pars, je sais pas quand, dans peut-être 2-3 semaines, j'ai pogné une job, je m'en vais avec Médecins sans frontières, je m'en vais au Niger, qui est comme juste en haut à droite du Nigeria, si tu veux. C'est un pays enclavé, une ancienne colonie britannique. C'est un pays comme 20 millions de personnes, parmi les plus pauvres au monde. Je pense toujours dans les palmarès des 10 pays les plus pauvres. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a Médecins sans frontières qui est là, puis plein d'autres ONG. Dans des pays comme ça, souvent, c'est même eux qui sont un peu comme... c'est beaucoup grâce à eux qu'il y a plein de vies qui sont sauvées parce que le gouvernement est assez faible, souvent dans des endroits comme ça. Donc, ils sont super importants. Le travail qu'ils font est comme primordial. Ouais.
Puis Médecins sans frontières, ça part d'où?
Médecins sans frontières, ça a été créé il y a 40-50 ans par des journalistes et des médecins qui trouvaient que le travail fait par d'autres organisations était intéressant, mais était limité des fois à des jeux politiques qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, aller d'un côté ou l'autre de la frontière. Donc, c'est de là l'idée de Médecins sans frontières. Donc, c'est la plus grosse ONG au monde. Il y a environ 45 000 personnes qui y travaillent. 90 % du staff est locaux, puis environ 10 % et des internationaux comme moi qui rentrent dans un pays avec une certaine expertise puis qui essaient de l'apporter puis de maximiser, dans le fond, le travail qui se fait sur le terrain.
Ça a parti où dans le monde?
C'est la première fois, je pense, que c'était la guerre du Biafra. Donc ça, c'était justement au Nigeria dans les années 70.
Puis c'était une initiative de...
C'est ça, deux médecins puis deux journalistes à la base français. Puis ils ont juste fait du cash, puis ça a bien fonctionné. Puis maintenant, tu sais, ils ont gagné le prix Nobel de la paix, ils ont gagné plein de choses. C'est vraiment... comme j'étais un sportif, là, moi, à la base. Ouais. Je pense qu'on s'en était parlé le dernier podcast. Puis super important, le jersey que je porte, là, je veux m'associer à des trucs à lesquels je crois.
Ouais.
Dans ma vie, j'ai toujours essayé de le faire. Les médias pour lesquels je travaillais, c'était super important. Même les entrevues que j'accordais, je trouvais ça important de le faire à du monde que je respecte, dont je respecte le travail puis ce qu'ils sont comme humains. Donc, quand je regardais mes possibilités en dehors du journaliste, parce qu'en ce moment, c'est assez difficile aussi de retourner sur le terrain, mais il y a aussi parce que j'ai comme vraiment envie d'essayer plein d'autres affaires dans ma vie. Fameuse phrase de Gandhi, puis toutes les autres. Mais donc, Médecins sans frontières, c'était dans le petit lot de ces organisations-là dont genre, je serais très, très fier de mettre le jersey, finalement.
Avec raison.
Oui, parce que c'est vraiment une organisation qui fonctionne. Des fois, tu as des ONG que tu ne sais pas trop c'est quoi le projet. Ils sont dans un pays, ils essaient de faire des affaires, mais les résultats ne sont pas toujours là. Médecins sans frontières, ils rentrent dans un pays, ils mettent des tentes, ils soignent du monde. Ils amènent des médecins, des infirmiers.
Très concret.
C'est super concret. T'sais, dans un pays comme le Niger, c'est y a un grave problème de malnutrition, par exemple. Ben, c'est ça. Ils font ce qu'ils peuvent pour nourrir des enfants. Beaucoup de déplacés internes aussi, parce que c'est une zone de passage pour les migrants africains qui essaient de monter en Europe. Ils traversent le Niger, mais le Niger, c'est 80 % du désert. T'as le désert du Sahara puis du Sahel là-dedans. Donc, il y a plein de monde qui meurt sur le passage. Fait que t'as des camps, justement, de Médecins sans frontières qui sont allés s'installer là pour essayer au moins d'aider ces gens-là. Puis c'est apolitique, là. L'idée, c'est pas toi, t'es une bonne personne, puis on t'aide. C'est juste, peu importe ce que tu fais, peu importe où ce que tu t'en vas, si t'es un humain, on va te soigner. Fait que je trouve ça vraiment cool, le travail qu'ils font.
C'est très puissant aussi comme message envoyé. Si on revient à l'idée de... Ben, ça répond tellement, je trouve, de manière juste au racisme, au sexisme, aux inégalités, de faire « si t'es un humain, on te soigne ». C'est vraiment un beau message à envoyer dans le monde.
Oui, puis je trouve que c'est vraiment en continuité aussi avec ma vision du monde. Parce que justement, tu sais, j'ai même les espèces de... les terroristes que j'ai pu rencontrer, par exemple, au Pakistan, je trouvais une certaine humanité, pareil, dans leur message, puis dans ce qu'ils étaient. T'sais. C'est pas nécessairement des mauvaises personnes. En tout cas, moi, je crois pas ça. Je pense que c'est juste des gens qui ont pogné la mauvaise traque parce qu'ils ont eu les mauvais outils ou ils ont été mal orientés dans leur vie, ou ils veulent juste être capables de nourrir leur famille, puis ce groupe terroriste-là leur fournit un X nombre d'argent qui leur permet de survivre puis de faire survivre les membres de leur famille. Donc, bref, j'aime vraiment l'idée de cette organisation-là.
Mais ce que tu viens de dire aussi, c'est que c'est puis on l'a vu, puis tu sais, mettons, moi, c'est vraiment difficile d'avoir de l'empathie pour, mettons, un terroriste. Là,
ouais,
genre de tous les êtres humains qu'on pourrait choisir. Puis ça veut pas dire... Puis ce que tu viens de dire, je trouve ça first courageux que tu le nommes, parce que on vit à une époque où les opinions sont très... ça, c'est la bonne opinion à avoir.
Ouais.
Puis ça, c'est...
Tranché.
Ouais. Et je trouve que là, ce que tu viens de dire, c'est pas... T'as pas dit que t'étais d'accord avec les terroristes. T'as pas dit que t'aimais les terroristes. T'as dit que tu trouvais... Il y a moyen de trouver une humanité dans cet être humain-là. Ça reste un être humain. Puis mettons que l'idée, c'est d'essayer que les êtres humains aient tout mieux puis que la haine cesse. Mettons qu'on devient vraiment... très utopique.
Ouais.
C'est ça l'idée. Je trouve que c'est le message que vous envoyez.
Oui, puis c'est aussi plus facile. C'est drôle parce qu'on nomme, par exemple, terroriste facilement quelqu'un qui est loin et qu'on ne connaît pas, mais bon, le FLQ, hein, on les a humanisés quand même beaucoup, mais pourtant, ce sont des terroristes aussi.
Mm-hmm.
Puis, mais en même temps, on a compris d'où ça venait. On a essayé, du moins, de comprendre d'où ça venait puis comment ça s'est fait. Puis même si ce qu'ils ont fait, c'est terrible, je pense que ces individus-là, à la base, c'est pas des gens qui voulaient mal faire, tu comprends? Ils sont juste arrivés à cette conclusion-là qui était totalement wrong.
Mm-hmm.
Mais donc, voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Fait que MSF, par exemple, soigne les terroristes. Là. MSF, ils soignent tout le monde. Là. Ça, des deux côtés du conflit, ils s'en foutent. Ils soignent des humains. Puis tout le monde a droit à la vie, c'est ça. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mon expertise là-dedans. Je vais être Field Communication Manager. Donc, je vais gérer toutes les communications de Médecins sans frontières dans le pays. Puis c'est pas des communications pour faire, mettons, la promotion d'MSF pour amasser plus de cash. C'est des communications opérationnelles. Donc, moi, je suis avec le chef de mission. Donc, tu as 2000 personnes environ qui travaillent pour MSF au Niger. Il y a le chef de mission, puis moi, je suis avec lui, puis je le conseille sur, mettons, des positions publiques qu'il devrait prendre pour s'assurer que MSF puisse continuer à faire son travail dans le pays. C'est environ ça, mettons, que je fais. Le reste, je ne peux pas te le dire vraiment parce que quand je vais être là, je vais plus aussi connaître mon mandat précis. Mais grosso modo, c'est ça que je m'en vais faire. Puis je pars 6 mois. Je pense, c'est ça, là, il commence le visa, donc j'imagine que quand ça, je ne sais pas quand tu vas diffuser ça, mais je vais peut-être être déjà au Niger à ce moment-là.
Ah ouais? Ça va, dans 3 semaines, un mois,
ouais,
mettons.
Ouais, c'est ça, environ, ouais, je devrais être là, c'est comme 2-3 semaines que je pars. Ouais.
T'es-tu nerveux?
Je suis content. Je suis vraiment content de pouvoir partir dans un monde de COVID, aller voir de mes yeux une autre place que j'ai pas vue, une autre réalité, un pays aussi qui est comme... Tu sais, là, tout le monde s'en fout du Niger, là. Genre, c'est pas comme le Nigeria, tu dis, bon, qui est le plus gros pays d'Afrique, Pakistan, oh, attention, à côté de l'Afghanistan, terroriste, Londres, des endroits où j'ai vécu qui étaient quand même des centres régionaux du moins importants. Là, le Niger, là, tu sais, je savais rien là, du pays avant de commencer à lire dessus. Claude Jutras a fait un reportage là en 1961. J'ai vu son documentaire. Tu sais, c'est comme, je suis parti de la base. Puis... Puis voilà, donc je trouve ça cool aussi d'aller dans une région du monde comme ça puis voir quel impact ça peut avoir que la communauté internationale s'intéresse pas trop à, du moins, la politique de ce pays-là parce qu'il y a toutes les ONG et tout ça. Mais puis aussi aller en plein milieu du désert. Tu as les Touaregs aussi qui sont dans le pays. C'est ceux qui ont un voile aussi comme ça. Tu les vois là, un peu dans le désert. Ils font de la musique. En tout cas, il y a toutes sortes de... Culturellement, c'est quand même assez puissant aussi comme endroit. Un pays enclavé, l'idée qu'il n'y a pas de frontières avec une mer ou avec un océan. Il y a seulement le fleuve du Niger, qui fait que ça s'appelle le Niger, puis que l'autre s'appelle le Nigeria. C'est le fleuve qui continue, qui traverse ces deux pays-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est une bonne idée d'aller 6 mois en plein milieu de Niamey, wow, la capitale, là-bas.
C'est incroyable.
Je pense que ça va être intéressant.
Hey man, tu m'en parles, puis je suis excité. Le chef de mission, est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as parlé? Tu connais-tu?
Non, zéro. Je sais pas vraiment dans quelles conditions je m'embarque non plus. Tu sais, c'est MSF, là. C'est quand même... c'est bien fait, là. Il y a quelqu'un qui réserve mes billets d'avion. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mon visa. J'ai une place où vivre là-bas. Je pense que je vais avoir un chauffeur. Tu sais, c'est comme... C'est des bonnes conditions de vie, là. Je vais pas faire pitié, mais... Mais c'est sûr que, mettons, je suis végétarien depuis décembre passé. Pas sûr de pouvoir continuer ça 6 mois là-bas. Tu sais, c'est pas... Mon petit 7 ans, là, pas sûr que je vais le trouver à l'épicerie du coin.
Aïe, aïe, man! Fait que là, c'est un gros saut dans le vide, dans le sens que tu connais l'organisme. Tu sais, visiblement, t'sais, quand tu as nommé que c'était dans un des jerseys que tu voulais le plus porter ou que tu admirais le plus. Fait que tu connais Médecins sans frontières. Là, tu te mets à lire sur le pays, mais après ça, ultimement, ta job, tu vas la prendre sur le terrain.
Ouais, vraiment.
Incroyable.
Puis les conditions de vie aussi, là, tu sais, je fais une joke sur le 7 ans, mais il y a quand même d'autres affaires, là. Tu vas avoir un air climatisé dans ma chambre.
Ouais.
C'est des questions de privilégiés, mais reste que quand tu es habitué à un certain confort de
absolument
vie, tu t'en vas dans les... Il y a comme... C'est pas cool pareil, là. Si
mais on dirait que du peu que je connais de toi, j'ai l'impression que c'est un défi qui te ressemble. Là. Puis ouais, surtout que je suis même pas inquiet de savoir... On dirait que je sais que tu es capable de faire ça.
Vraiment. C'est juste qu'avec le temps, il y a des niveaux que tu commences à avoir atteints. Là. Mettons, mon taux de coquerelle dans un appartement, je pense que j'ai comme atteint. Là. C'est comme... Je l'ai vécu là, plusieurs mois, plusieurs pays. Ça serait cool si mon appart, il n'y en avait pas. Mais bon, s'il y en a, je vais le gérer, puis c'est pas grave, là. Mais c'est juste des petites affaires de même que des fois, tu fais comme... Ça use là, avec le temps, ces choses-là. Bon, j'ai une blonde. L'idée de ne pas voir ma blonde pendant 6 mois, ça va être tough.
Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir venir te visiter? Possiblement, la situation du coronavirus fait en sorte que...
Ben c'est compliqué là, à plusieurs niveaux. T'sais. Un, Laurence, une environnementaliste quand même. Donc, d'un point de vue personnel, prendre l'avion, c'est challengeant.
Ouais.
Deux, elle n'aime pas prendre l'avion. On a eu des très mauvaises expériences. Quand on est revenu, entre autres en mars, là, on a eu vraiment eu peur de mourir.
Non!
Je te jure.
Qu'est-ce qui arrivait?
Donc, Afrique du Sud, Montréal, fin mars, coronavirus.
Vous passiez par L.A.? Par
on a passé par Paris.
Par Paris, oui. Ah oui, ben oui, c'est par là. Ah ouais. Non, moi, j'arrivais de l'île Maurice. Anyway.
Ah ouais?
Oui, ah c'est par ouais. là je suis passé.
T'as fait un escale à l'île Maurice?
Ben, le voyage final était à l'île Maurice.
Ah, c'est vrai, ben oui.
Et ensuite de ça, mon escale était aussi à Paris. Oui,
oui. Ouais. Puis notre vol Paris-Montréal, tout allait bien. Puis là, un jour, à un moment, ils nous disent il va y avoir des turbulences assez intenses. On est comme, OK, pas grave. J'en ai vu d'autres. J'en avais pas vu d'autres. C'était vraiment non. un autre niveau. Là. C'est-à-dire que tout le monde était assis, même les hôtesses de l'air. Et on faisait des drops de comme un bon 3-4 secondes. Puis là, tu te dis, bon, un ou deux drops, c'est pas super. Mais là, on en est venu à un niveau là, où ça shakait. On faisait vraiment des espèces de comme ça. Mais c'est parce que dans le fond, c'est qu'ils essayaient de nous sortir du nuage vraiment intense, des orages violents. Je pense qu'il y avait des vents de 200 km/h.
Oh my God.
À ma gauche, j'ai ma blonde qui trippe pas tant déjà sur l'avion. J'y tiens la main. À ma droite, j'ai genre une vieille madame congolaise que c'est la première fois qu'elle allait, elle prenait l'avion.
Non.
Elle revenait du Congo, tu sais.
Non.
Puis elle habitait à Montréal. Et. Écoute, elle avait tellement peur, là. Fait que j'y tiens la main aussi.
Oh, t'es fin.
Puis là, je disais, madame, je vous le promets, on va pas mourir. Elle a prié Dieu, elle était comme, c'est la fin. Mais tout le monde dans le wagon, là, dans l'avion, était en mode, c'est la fin. Là. La femme, trois sièges en avant de nous, elle criait au meurtre, elle était comme, on va tous mourir. À chaque fois qu'on descendait, tout le monde criait au meurtre. Pour vrai, moi aussi, j'étais comme, ça se peut que ça se termine. J'ai regardé Laurence, on s'est dit, on s'aime. J'ai dit, genre, je t'aime. Elle m'a dit, je t'aime. Puis on avait vraiment, vraiment peur. Là. Puis ça a duré un bon 10-15 minutes.
Ah, c'est que ça devait être interminable.
Oui. Puis là, moi, évidemment, j'avais peur de mourir, mais c'était pas ça mon principal focus. Mon principal focus, c'était, vomis pas. Vomis pas.
Est-ce que t'as vomi?
Écoute, quand on a retrouvé après 10-15 minutes un semblant de normalité, j'ai déferlé la fureur. Ça a été un sac après l'autre. Là. Écoute, c'était tellement ridicule. Puis là, on est arrivé à Montréal. Mon frère est venu nous chercher à l'aéroport. En revenant à la maison, Saint-Denis-Villeray, j'ai revomi encore en plein milieu de la rue. Tu sais, je sors de la voiture en plein coronavirus. Tu vois un gars sortir de son char puis se mettre à vomir en plein cœur de Rosemont. En tout cas, j'avais vraiment l'air niaiseux. On a vraiment eu peur. On a vraiment, vraiment eu peur.
C'est terrifiant. Moi, on dirait que je veux pas le jinxer. Là. J'ai été chanceux en avion, là, mais asti que c'est terrifiant, ces histoires-là.
Ouais, ouais, vraiment. Puis on dirait que moi, je suis comme. Je l'avais pas eu non plus. Puis là, c'est comme check. Je me dis, bon, j'ai eu cette histoire-là. On dirait que je suis bon pour une couple d'années encore. Ouais. Mais on sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Puis c'est surtout l'idée d'impuissance. C'est d'être
oui.
Puis on a tellement vu de films. C'est juste. Ouais, en tout cas. Fait que ouais, c'était pas génial, ce truc-là.
Fait que là, tu quittes dans 2-3 semaines, tu t'en vas habiter. C'est quoi le nom de la ville?
Niamey.
Niamey.
Ouais, c'est la capitale du Niger.
Incroyable. Puis
là où c'est un problème, c'est qu'il y a quand même un grave problème de sécurité en ce moment au Niger. Là. Il y a 2 semaines, 6 travailleurs français d'une ONG se sont fait tuer.
Non!
Ouais.
Comment ça?
Ils étaient dans une espèce de parc national qui était pourtant assez reconnu comme étant sécuritaire. Mais ils se sont fait comme il y avait une embuscade ou je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une voiture avec des terroristes qui sont rentrés puis ils ont tous fusillé.
Non.
Parce que c'est une région très chaude en ce moment dans le monde.
Pourquoi?
Parce qu'il y a comme 5 pays, là, ce qu'on appelle le G5 Sahel, donc ce qui fait tout le désert du Sahel, où il y a toutes sortes de groupes terroristes et aussi de juste révoltes populaires qui revendiquent plein d'affaires, mais entre autres des groupes islamiques aussi, là, qui revendiquent toutes sortes d'affaires puis qui tuent des gens puis qui sont en guerre aussi contre les gouvernements. Donc, il y a comme une alliance qui s'est faite entre ces pays-là. Ça inclut entre autres le Niger, mais aussi le Mali. Il y a le Burkina Faso, où d'ailleurs une Québécoise avait été enlevée il y a comme un an, je pense. Mmh. Elle a été libérée il y a quelques mois de cela aussi. Donc, c'est une région extrêmement dangereuse où il y a des enlèvements, où il y a beaucoup de violence, puis des conflits armés. Il y a 5000 soldats français qui aident les forces aussi régionales. Donc voilà, c'est dans ce contexte sécuritaire-là aussi dans lequel je m'en vais. Bon, avec MSF, il y a quand même beaucoup de mesures de sécurité, mais le risque zéro, il n'existe jamais.
Ouais. Est-ce que, comment tu te prépares à ça? Comment tu prépares tes proches à ça? Est-ce que, j'imagine, dans le sens, ta famille doit, puis tes amis doivent commencer à être habitués de savoir que tu vas quitter pour des endroits peu visités, mettons, là. Mais... Ouais. Là, tu sais, ta quête est super noble et vraiment admirable. Mais mettons, j'imagine, moi, ma mère, il y a quelque chose de très... Ce serait... Comment tu te prépares, toi, à ça?
Bien, personnellement, j'ai pas trop de problèmes avec ça parce que on dirait que j'ai pas d'autre route à prendre. C'est celle-là que j'ai envie de prendre, donc j'y vais à fond. Je reste quand même conscient des risques. Mais tu sais, si j'ai à mourir là-bas, je mourrai là-bas, tu comprends? Dans le sens que ce sera la chose que j'aurais faite dans ma vie, puis... Puis that's it, tu sais, parce que ça finit tout de la même façon de anyway. Donc pour moi, c'est juste le chemin à prendre. Ceci dit, je suis quand même conscient aussi que les risques sont mineurs. Là. C'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. C'est surtout ce qu'on voit dans les médias qui arrive. Pour la famille, c'est sûr que c'est plus difficile parce que c'est comme quand tu contrôles pas une situation, hein, tu peux juste imaginer le pire. Moi, je suis comme en contrôle de ma situation pareil parce que c'est moi qui est là, c'est moi qui va vraiment voir ce qui se passe. Mais oui, pour une mère, c'est tough. Oui, pour une blonde, c'est tough. Oui, pour mes proches, des fois, ils s'inquiètent pour moi. Mais
la personne qui comprend le mieux, c'est ton frère.
C'est ça. Mon frère, lui, il est comment? Cool.
C'est ça.
Non, mais c'est ça. Mais il faut vraiment toujours faire attention. Faut pas banaliser ça non plus. Mais non. La ligne est mince entre ne pas banaliser et ne pas faire peur aussi à tes, tes proches. Là, je trouve ça un peu tough parce qu'il y a un vrai risque, mais beaucoup moins important que ce qu'on peut s'imaginer, même dans les endroits chauds comme le Niger. Ouais.
Man, fait que là, j'en reviens pas que tu pars dans 2-3 semaines.
Je suis vraiment content. Puis j'ai hâte de voir aussi comme à quoi ça va ressembler, là, le voyage. Je pense, pour vrai, je vais faire des stories un peu là-dessus juste pour montrer au monde à quoi ça ressemble à un aéroport maintenant, puis un voyage, puis comment... Tu sais, moi, je suis vraiment curieux de savoir comment ça se passe. Là, fait que je me dis, bon, il y a peut-être d'autres mondes aussi. Fait que j'espère comme être capable de continuer à publier beaucoup sur Instagram. Quand je suis en voyage, en tout cas, j'ai comme une bonne réponse des gens en général. Ça les intéresse, surtout que c'est des endroits où les gens voyagent... pas très souvent. Donc, je vais le faire vivre au monde aussi un peu comme ça. C'est la plateforme que j'aime le plus. On parlait de hate tantôt. Je trouve qu'il y en a pas mal moins là-dessus. Je suis un journaliste. Je devrais être sur Twitter. Je le suis. Je publie pas tant que ça sur Twitter parce que je trouve que ce qui pogne, c'est comme le punch puis le coup, le coup fatal dans une situation. Alors que si tu fais juste faire « Bonjour, j'ai lu ceci, je trouve ça très bon. » Il y a comme une personne qui like, ça se finit là. Au moins sur Instagram, je sais pas. Tu peux partager des choses qui sont super intéressantes aussi. C'est comme une belle façon de propager du contenu, mais aussi, il n'y a pas tant de hate encore.
Ouais.
Peut-être que ça deviendra comme ça dans une couple d'années, mais on
Je sais pas, profiter, peut-être aussi qu'on est habitué.
Comment tu le vis, toi?
On est habitué aux images. C'est peut-être pour ça que les gens aiment autant Instagram, c'est qu'on veut voir, on veut plus lire. Le monde est plus paresseux, peut-être aussi. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose de graphique. Tu sais, on le voit. Tu peux nous amener où ce que toi, t'es, tu sais.
Ouais. Avec les définitions, avec les, comment on appelle, les captions.
Les captions,
c'est quand même cool, là, tu peux raconter une courte histoire.
Moi, j'adore ça, tu sais. Mais, mettons, j'ai un rapport. Dans la dernière année, mettons, je me suis un peu éloigné de cette plateforme-là. C'est juste que c'est au cœur de mon travail qui fait en sorte que... Puis mon travail est au cœur de ma vie. Fait qu'à un moment donné, Instagram était comme au cœur de ma vie. Puis à un moment donné, je me suis mis à poser la question pourquoi... Pourquoi je montrerais mes vacances?
Ouais.
Parce que là, moi, c'est un outil de travail. Fait que, mettons, que ma sœur monte ses vacances, je comprends, c'est pas un outil de travail. C'est fait que pour la plaisance, hein, son Instagram. Fait que je comprends qu'elle... Mais moi, je suis dans une espèce de contexte où... Puis après ça, ben là, il y a des articles écrits sur moi, des publications. Après ça, ben là, il y a du monde qui taillisse parce que t'as changé de couleur de cheveux ou que t'as les ongles faits, alors que j'ai jamais demandé à ce que quelqu'un écrive un article là-dessus. Mais fait qu'il y a une espèce d'affaire où je suis plus en contrôle. C'est que dans ma tête, c'est un petit moment qui se veut funner ou peu importe. Puis finalement, ça prend des proportions qui... Puis on s'entend, on est au Québec, là, puis ça va, là, dans le sens, c'est pas gigantesque. Mais des fois, je fais comment? On dirait que je veux pas nourrir cette bête-là. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant le podcast, c'est que c'est comme, je participe à cette affaire-là, que sont les réseaux sociaux, mettons, par la bande en faisant ça. Mais moi, ça me permet d'avoir une conversation avec un vrai être humain en face à face. Puis moi, quand je consomme un podcast, ben j'ai l'impression d'un peu avoir juste une oreille dans la pièce, puis... Fait que si je peux proposer ce genre de contenu-là aux gens, je pense que c'est plus vrai de penser que tout le monde était intéressé strictement à des trucs qui sont comme 140 caractères ou 15 secondes, 3 minutes. Moi, je suis comme, ben, j'ai écouté un podcast de 4h47 il y a 3 semaines, puis chaque seconde m'a fait triper, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais, j'ai une relation amour-haine avec ça.
Surtout que c'est un feu roulant, là. Moi, je veux dire, ouais. Je vais sur Instagram, ouh, 2 notifications, là, je suis comme excité. Toi, ça doit être juste, ça arrête jamais. Fait que c'est si ça. En plus c'est perçu comme du travail, c'est...
Ben, puis après ça aussi, il y a toute la... Tu sais, moi, quand l'algorithme a changé, je l'ai vu, tu sais, vu que j'avais beaucoup de following, ben, je l'ai vu du jour au lendemain où ce que, ben, ah oui, tu sais, toutes les gens qui me suivent voient ce que je publie à, ah, ben, si tu commentes pas, si tu likes pas tout, si t'es pas en réaction, si tu réponds pas aux commentaires, ben, à un moment donné, l'algorithme fait en sorte qu'ils veulent plus te montrer tant que ça. Comment je fais... Ah, tout ça. J'ai même pas le contrôle là-dessus, là. C'est un peu de la bullshit. Fait que je fais comme, ah, fuck off. Puis, ouais. Je sais pas aussi.
Fais tes projets.
Ben, puis aussi, c'est que je l'ai fait, tu sais, dans le sens où je me suis. Tu sais, en 2015-2016, tu sais, j'étais full actif là-dessus. Puis ça m'a aidé à avoir des gigs. Puis ça m'a aidé à me rendre ici aujourd'hui. Puis quel luxe aujourd'hui de pouvoir m'en détacher un peu. Puis de laisser la place à des gens qui le font tellement bien. Puis qui l'utilisent tellement mieux que moi. Que je fais comme, ah, ben. Là, c'est une phase. Je suis pas contre, mais je suis pas pour. Fait qu'on dirait que je suis en train de me faire une tête. Fait que je fais, ben, je vais m'en éloigner un peu. Puis on verra. Mais après ça, je veux dire, moi, j'y vais encore quotidiennement. Là, t'sais. Ouais. J'ai fait une semaine sans Instagram pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande. Puis, tu sais, après ça aussi, c'est que c'est facile de dire, ah, ça m'a fait tellement de bien. Puis j'ai tellement sauvé de temps. Puis oui. Mais après ça, quand je me suis remis là-dessus, j'ai réalisé qu'il y avait comme mon cercle d'amis un peu. Qui n'est pas mon cercle le plus proche, mais comme le deuxième cercle d'amis, j'ai réalisé à quel point on communiquait beaucoup sur ces plateformes-là pour prendre des nouvelles, pour savoir. Tu sais, toi et moi, on n'est pas particulièrement proches, mais si tu es au Niger, ben la seule manière que moi j'ai des nouvelles de toi, ça va être via ça, puis ouais. C'est quand même positif, tu sais. Fait que j'en suis venu aussi à la conclusion que, tu sais, on choisit qui on suit. Moi, je suis du monde qui m'inspire ou que je trouve nice. Je suis pas du tout un fan de, tu sais, suivre quelqu'un pour le hate ou ah, regarde ça, nanana, puis. Fait que moi, je suis comme, tu sais, je suis des... Il y a un dude en Californie qui s'entraîne, puis je fais ses trainings, puis comme je suis Rogan, puis whatever. Là, ouais. Fait que Jasmin Lavoie, ça, c'est ton at, Jasmin Lavoie. Ouais. Si jamais les gens veulent te suivre sur Instagram dans ton aventure.
Ouais, je pense que je vais essayer de mettre un peu de contenu là-dessus, au moins pendant mon voyage, parce que c'est, je trouve que c'est ça. C'est la plus belle... voyons, vas-tu être capable de parler? la plus belle plateforme
ouais.
pour communiquer, je trouve, en voyage, vraiment. Je sais pas, je l'aime du moins. Mais je comprends ouais. aussi tes préoccupations parce que ça devient aussi un espèce de plateforme où il y en a, là, je pense qu'on est rendu au point où les gens construisent leur identité en fonction de ça. Ouais. Ils vont définir des endroits où voyager ou des activités à faire en fonction de comme le contenu après qu'ils vont pouvoir partager en ligne.
Ouais.
Fucky, pareil, ça.
Ouais, ouais. Mm. Ouais. Mais je vois tout le beau de ça. Puis ça m'a amené plein de belles affaires. Mais là, on dirait que j'essaye vraiment de me... Tu sais, comme, hey man, une belle soirée où il y a, tu sais, pas de story ou rien, c'est fucking nice aussi, là. Tu sais, il y a quelque chose de comme... Hey, drop ça, puis sois là. Tu sais, j'aime ça quand mon sel est dans une autre pièce. J'aime ça, ça me fait du bien, puis c'est correct, tu sais. Fait que... Après ça, encore une fois, c'est peut-être facile, entre gros guillemets, au niveau auquel je suis rendu, mettons. Fait que... Puis c'est facile à dire quand t'es là, les followers. Tu sais, il y a ça aussi, là. C'est comme moi qui dis que je suis contre les galas, mais que j'ai des nominations. C'est facile de dire « Ah ouais, j'ai pas besoin d'être connu pour être heureux quand tu l'es. » Tu sais. Fait que je sais pas exactement, mais on dirait que je veux juste m'assurer de garder le nord puis de m'en aller à la bonne place. Tu sais.
Tu commences bientôt, Audé, ou...
Techniquement, quand ça va rentrer en... Quand je vais publier le podcast, je pense que ça va commencer. On entre en onde techniquement le 14 septembre, puis le tapis rouge est le 20.
Là, tu vas t'assurer de débloquer la géolocalisation Niger pour être sûr que le contenu soit partagé au moins pour les gens au Niger qui ont envie d'écouter OD.
Je vais essayer.
Ouais,
je vais essayer.
Ça serait la base, Jay, je pense.
Sinon, que... je peux. Ben, prends-toi un VPN. ça s'arrange.
non, mais c'est ça, je vais l'écouter en plus parce que c'est divertissant. Sociologiquement, c'est, je trouve ça
fascinant.
Tellement intéressant.
Ouais, fascinant quand même.
Les personnages, comment ils vivent. Puis c'est juste, peu importe c'est qui, là, tu sais, c'est juste l'idée de vivre. Pogné, exclu du reste du monde. On parlait des réseaux sociaux en dehors de ça pendant tellement longtemps.
Ouais.
Oui. Je suis sûr que tu as eu toutes ces discussions-là ouais. avant. Là, mais
man, on en reparlera. Pour ouais. vrai, j'ai déjà hâte. En fait, j'ai pas hâte que tu reviennes pour toi. J'ai hâte que tu arrives là-bas et que tu vives ce moment-là. À la seconde où tu reviens, au moment où tu as envie, tu reviendras ici et tu nous raconteras ce que tu as vécu.
C'est quasiment un rendez-vous annuel. Là. Je t'ai
ouais.
vu l'année passée.
Ouais.
Pas mal à la même date.
Ouais. Mais merci vraiment d'avoir pris le temps. T'es fascinant, mon gars. J'adore parler avec toi. Vraiment, vraiment.
Merci, Jay. C'est vraiment un plaisir partagé.
Puis bonne chance.
Salut, man.
Salut.